Vous êtes sur RTL.
Nous vous proposons ce matin une matinale bien garnie et à 7h15, nous reviendrons sur l'exceptionnelle crise des mariages dans notre pays. Seuls 150 000 ont été célébrés l'an dernier, chiffre en recul de 30% pour cause de pandémie bien entendu. C'est un secteur sinistré avec 80% de pertes. Pour les professionnels, nous vous donnerons tous les détails avec notre brigade et vous entendrez aussi un jeune couple qui ne perd pas espoir. Des mariages, lui, il en a célébré des quantités. Je veux vous parler de notre invité politique de 7h40. Alba Ventura reçoit ce matin Jean-Claude Gaudin, 50 ans de vie politique, 25 à la mairie de Marseille. Il publie ses mémoires chez Albin Michel. Elles sont intitulées « Maintenant, je vais tout vous raconter ». Nous ferons un petit tour à Wall Street juste avant. Il sera 7h35 et François Langlais nous racontera le dernier scandale en cours. Ça n'est pas rassurant du tout, du tout, du tout. Enfin, notre brigade de 8h15 avec la question du moment. Faut-il, oui ou non, fermer nos écoles? Sophie Orange nous aidera à y voir plus clair. Nous sommes le mardi 30 mars 2021. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal tout de suite, il est 7h. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la double peine du Covid long.
Oh oui, des patients qui souffrent à la fois dans leur corps et qui souffrent aussi de l'incompréhension parfois de leur entourage ou de médecins qui les soupçonnent de faire du cinéma. On verra que des cliniques développent des protocoles spécifiques pour les aider. Y aura-t-il des élections régionales en juin? Le conseil scientifique reconnaît qu'il y a des risques, mais laisse le soin au gouvernement de trancher. Dans ce journal également, les 9 minutes insoutenables de l'agonie de George Floyd diffusées hier à l'audience à Minneapolis. Les jurés ont été marqués. Et puis une fiesta clandestina le week-end dernier à Barcelone qui fait les gros titres. C'est un joueur de l'Olympique de Marseille en vacances qui l'avait organisé.
Bien sûr, dès la fin du journal d'Olivier Bois, la politique avec Olivier Bosse.
Et oui, et nous allons parler de la gauche qui se déchire et s'auto-détruit sur sa conception de la République.
A tout de suite.
RTL Matin.
Commençons donc ce journal par un témoignage pour mieux comprendre ce que l'on appelle le Covid long, qui reste d'ailleurs à ce jour une conséquence assez mystérieuse de la maladie. Martine est employée municipale à Toulouse. Elle est toujours très affaiblie un an après avoir été contaminée. Et elle a beaucoup souffert aussi, en plus des conséquences physiques, de l'incompréhension parfois d'une partie de ses proches.
Au début, reviens au boulot, reprends, ça va te faire du bien de nous revoir. Et je ne pouvais pas. Et de le faire entendre aussi à certains médecins. Et heureusement que mon médecin personnel me connaît depuis 25 ans et qu'elle savait très bien que ce n'était pas du cinéma. C'est terrible dans tout le corps. Ces sensations de brûlure, qui partent au niveau des pieds, qui remontent dans les bras et dans la tête. Et en même temps, j'ai très très froid. Je dors avec des pulls, des capuches. J'ai ce brouillard dans le cerveau. Ça me donne l'impression d'avoir un étau qui comprime. Il n'y a plus rien. Vous pouvez me parler si j'entendrai même pas ce que vous me dites. Je ne sais pas si ça va complètement disparaître, si je vais garder des séquelles, j'en sais rien.
La souffrance et l'inquiétude de Martine, donc touchée par une forme longue de la Covid. Patrick Tégéro s'est rendu dans la clinique du souffle Corian à Auxéja, dans les Pyrénées-Orientales, spécialisée à l'origine dans le traitement des maladies respiratoires et qui a développé depuis un an un programme pour aider ses patients.
Tous les cas, bien sûr, sont particuliers, mais il y a des symptômes communs. Teresa Serol est le médecin de la clinique.
C'est des patients qui ont un essoufflement chronique, une fatigue musculaire et des problèmes de sommeil liés avec l'angoisse.
Myriam Dubois, cadre infirmier.
Ils ont l'impression de gêner, ils ont l'impression qu'on les comprend pas, ils ont l'impression qu'ils en rajoutent. Cette impression-là, ben, ils la perdent ici, parce qu'ici, ils ont vraiment le sentiment qu'on s'occupe d'eux.
Adriana Castagne-Yanès dirige le programme de réhabilitation où l'on trouve beaucoup de kinés respiratoires, bien sûr.
Pour optimiser cette fonction respiratoire, des régions pulmonaires qui étaient fermées, des muscles respiratoires qui étaient affaiblis, donc il faut les optimiser pour faire entrer davantage de l'oxygène qui va oxygéner le corps.
Et avec des exercices adaptés enseignés par Antonin Vernet.
De la marche à l'extérieur, des randonnées, du vélo en intérieur, on va retrouver du renforcement musculaire. On a vu un monsieur qui est arrivé en début de séjour avec de l'oxygène en déplacement, qui avait énormément de mal à marcher plus de 3 minutes sans s'asseoir et être totalement essoufflé. À la fin du séjour, il n'avait plus d'oxygène et il arrivait à faire une randonnée de 1 heure, 1 heure et demie, sans grande difficulté.
Une dizaine de patients ont déjà suivi ce programme de 5 semaines, alors s'ils vont mieux, les symptômes n'ont pas complètement disparu, mais ils savent désormais gérer leur douleur et vivre avec.
Merci Patrick. Mathé Géraud, correspondant RTL dans le Sud-Ouest.
Cette question maintenant, les élections régionales et départementales pourront-elles se tenir au mois de juin?
Le Premier ministre Jean Castex avait dit qu'il se conformerait aux préconisations du Conseil scientifique. L'avis a été rendu hier. Alors le Conseil reconnaît qu'il y a un risque vu l'aggravation de l'épidémie et la propagation du variant anglais. Mais sur la tenue des élections, il ne tranche pas, William Galibert.
Ah oui, le Conseil scientifique ne prend surtout pas position. En résumé, voilà où on en est. Et débrouillez-vous avec ça. Au passage, les scientifiques rappellent que la situation au mois de juin dépendra des décisions actuelles du chef de l'État. Alors cela dit, il y a tout de même quelques recommandations si jamais ce scrutin était maintenu. Le conseil scientifique propose de confier les bureaux de vote uniquement à des personnes vaccinées. Il propose aussi d'installer ces bureaux en extérieur quand ça sera possible, d'en étaler les horaires d'ouverture et puis d'encourager les procurations. C'est maintenant Matignon qui doit rendre son propre rapport aux parlementaires d'ici demain soir. Ensuite, le vœu de l'exécutif, ce sera d'associer l'ensemble des partis politiques à la décision finale pour ne surtout pas être accusé de tripatouillage électoral.
Merci William Galibert du service politique d'RTL. Face à la puissance de la troisième vague, Emmanuel Macron va-t-il serrer la vis? Le Conseil de défense demain sera important. Le gouvernement voulait attendre d'ici là les derniers chiffres pour voir si les mesures actuelles ont un effet. La pression hospitalière est en tout cas toujours aussi forte. Près de 5000 patients sont soignés désormais en réanimation. Le pic de la seconde vague est désormais passée.
Dans un instant, direction Minneapolis, le procès du policier accusé d'avoir tué George Floyd a commencé hier. Les images de son agonie ont été diffusées à l'audience. A tout de suite.
RTL Matin.
7h06, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Le procès de George Floyd a vraiment commencé hier, Olivier.
Oui, les trois premières semaines avaient été consacrées à la sélection des jurés qui hier ont vu à l'audience la vidéo de l'agonie de George Floyd le 25 mai dernier. Un moment qui pourrait être déterminant, Lionel Gendron.
Oui, car 8 jurés sur 10 se feraient leur avis la première journée du procès. Une introduction violente pour celles et ceux, jurés ou téléspectateurs, qui n'avaient jamais vu l'intégralité de la vidéo. 9 minutes et 29 secondes d'agonie. Plus de 20 fois, George Floyd répète qu'il ne peut pas respirer. Appelle sa mère à l'aide.
Mama, I love you.
Alors que Derek Chauvin appuie son genou sur son cou, les mains dans les poches. Les passants le supplient, lui et ses collègues, d'arrêter. Rien n'y fait. D'où cette présentation de l'accusation.
Vous verrez que le 25 mai 2020, M. Derek Chauvin a trahi son insigne de policier.
Comme prévu, la défense du policier tient en deux axes. Premièrement, Derek Chauvin a suivi les procédures. Deuxièmement, c'est une prise de drogue qui aurait causé sa mort.
Les preuves montreront qu'à l'arrivée de la police, M. Floyd a mis de la drogue dans sa bouche.
Derek Chauvin risque jusqu'à 40 ans de prison. Selon l'avocat de la famille Floyd, c'est aussi l'Amérique qui est en procès. Joe Biden a indiqué qu'il suivrait les débats avec attention.
Merci Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. En Birmanie, les ONG estiment que 500 civils au moins ont été tués depuis le coup d'état militaire le 1er février dernier. La junte à nouveau a fait tirer sur la foule samedi dernier. La France dénonce la violence aveugle et meurtrière du régime birman. Et puis au Brésil, Javier Bolsonaro remanie son gouvernement avec 6 changements de ministres importants. Le président brésilien est sous pression alors que l'épidémie flambe toujours. 2500 personnes sont mortes tous les jours la semaine dernière au Brésil de la Covid.
Retour en France, Olivier. On va partir à Saint-Malo où des habitants sont excédés par la prison à côté de chez eux.
Oui, touchés directement par les trafics qui s'organisent à l'intérieur de la prison, tous les jours ou presque. Ils voient des complices pénétrer dans leur jardin pour tenter de faire passer de la marchandise, Nicolas Bobby.
Ce riverain fait de la résistance. Son jardin ressemble à un petit camp militaire. Il ne supporte plus les jets de drogue emballés dans des chaussettes ou des balles de tennis.
Et il passe par-dessus les clôtures et saute sur le garage. Mais plus maintenant, depuis que j'ai mis des barbelés pour qu'ils s'accrochent dedans, que la prison mette un filet pour empêcher ces voyous d'envoyer de la drogue.
Une console de jeu et même un hamburger ont fait le grand saut. Parfois, c'est raté. Ce voisin fait régulièrement des découvertes.
Des petits paquets de résine de cannabis, des paquets contenant des cartes à puces de téléphone, une fois par mois minimum, carrément marre. J'ai déjà un paquet qui est passé dans la tondeuse. Ça va mettre de l'engrais à la pelouse.
La police est omniprésente. Le commissaire de Saint-Malo, Guillaume Catherine.
J'ai demandé à la BAC de patrouiller régulièrement. On a ciblé évidemment les horaires les plus susceptibles de donner lieu à ces jets de produits, pendant les heures de sortie, pendant les heures de sport. On a sollicité à plusieurs reprises les habitants pour pouvoir planquer, entre guillemets, dans leur maison.
Les interpellations ne sont pas sans risque. Un policier blessé à l'épaule est immobilisé pour 6 semaines.
Reportage de Nicolas Bobby. En bref, députés et sénateurs se sont mis d'accord hier soir sur la loi sécurité avec à la clé la création d'un nouveau délit de provocation à l'identification pour ceux qui dévoilent sur Internet l'identité de policiers ou de gendarmes quand ils les filment, par exemple.
Et pour finir, deux joueurs de l'Olympique de Marseille épinglés pour une fête clandestine, je ne peux pas le croire.
Oui, deux joueurs qui n'ont pas eu l'honneur, figurez-vous, d'être retenus par leur sélection nationale et qui ont profité de la trêve internationale, non pas pour se reposer, mais pour faire la fête à Barcelone. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été très discrets, Hugo Hamelin.
Si, una fiesta clandestina, selon le journal catalan Ara, qui révèle l'affaire, la soirée se déroule dans une villa de location à 700 euros la nuit, avec piscine et palmiers, en banlieue nord de Barcelone. C'est tard dans la nuit, de samedi à dimanche, que les policiers sont appelés par des voisins excédés par la musique et par les cris des convives. Mais quand la Guardia Urbana arrive sur place, les fêtards refusent d'ouvrir la porte. Il faut appeler les propriétaires, et c'est finalement Paul Lirola, défenseur prêté à l'Olympique de Marseille cette saison, qui se désigne comme porte-parole et organisateur de cette fête clandestine qui regroupe plus de 30 personnes, dont son coéquipier, le jeune défenseur argentin Léo Balerdi. Certains invités se cachent dans la villa avant d'être finalement découverts par la police. Paul Lirola est accusé de désobéissance grave, l'équivalent de notre refus d'obtempérer. Lui affirme qu'il dînait seulement avec 5 amis. Une incartade qui pourrait coûter cher à nos deux Marseillais, alors que l'Olympique de Marseille reçoit Dijon ce dimanche au Vélodrome.
Merci beaucoup Hugo Hamelin, correspondant RTL à Marseille. On le disait, c'est la trêve internationale. Pour ceux qui jouent, c'est demain. L'équipe de France affronte la Bosnie à Sarajevo pour le troisième match des éliminatoires en vue du Mondial 2022.
Bon, je vais tâcher de ne pas m'endormir. Les courses, elles ont lieu à Fontainebleau.
Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. L'As, le 2, le 3, le 14, le 11, le 7 et le 16. La dernière minute étant le 7, Yves.
Et c'était le journal d'Olivier Bois sur RTL. Il est 7h10, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les dérives racialistes d'un syndicat étudiant font éclater la gauche comme jamais, Olivier.
Oui, c'est un beau piège, un piège parfait, et une bonne part de la gauche s'est vautrée dedans. Par leurs excès et leurs ambiguïtés, des antiracistes se retrouvent accusés de racisme. Résultat, c'est toute la gauche qui se divise et se déchire.
Alors là, il faut que vous preniez un petit peu de temps pour résumer la situation et qu'on comprenne bien exactement ce qui se passe.
Alors, un syndicat étudiant, l'UNEF, à l'origine une pépinière de futurs talents pour le Parti Socialiste, revendique aujourd'hui d'organiser des réunions réservées à des non-blancs qui s'estiment discriminés, sur le modèle des réunions de féministes dans les années 70 quand elles ont voulu libérer la parole et s'organiser. Des réunions sans blancs ou alors qui se taisent, comme l'a défendu Audrey Pulvar, la candidate socialiste au régional dans l'Île-de-France. Beaucoup y dénoncent une dérive racialiste, une approche purement communautariste d'une part de la gauche. C'est un phénomène qui ne vient pas de nulle part, il vient des États-Unis. À gros traits, il a fait à la fois l'élection de Barack Obama, puis par son rejet, la victoire de Donald Trump. En France, cela est totalement contraire à une tradition universaliste de la gauche de gouvernement.
Mais la vraie question, c'est comment cela peut-il provoquer une pareille division ?
Eh bien, jusque-là, la gauche se divisait sur la part d'idéalisme ou l'envie réelle d'exercer le pouvoir. Et elle arrivait à créer un arc des marxistes aux sociaux-démocrates quand elle arrivait au pouvoir. Là, c'est une vision de la société complète qui les oppose complètement. La cassure est très nette. En soutien à l'UNEF et à ses pratiques, il y a la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon en tête. Il y a une part des écolos, dont le patron d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Et puis il y a ceux gênés qui lâchent ou condamnent l'UNEF. Il y a le patron du PS, Olivier Faure, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui va s'en expliquer demain, et le député européen écolo, Yannick Jadot. La plupart des socialistes savent encore où ils habitent. Chez les écolos, c'est moins net. Chez les insoumis, ils ont changé de rive, car Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres chez les Insoumis, n'ont pas toujours été complaisants avec ses approches militantes.
Pourquoi cette évolution, voire cette dérive vers l'extrême gauche ?
Eh bien, en fait, c'est un mélange d'étonnants, fait de vraies divisions sur le fond, sur cette façon de lutter contre le racisme ou défendre les musulmans jusqu'à flirter avec l'islamisme. Et il faut ajouter à ce mélange des rivalités exacerbées avant 2022 et l'impossible union. Une part de la gauche veut remplacer un vote populaire qu'elle a perdu par un vote communautaire. Jean-Luc Mélenchon a aussi retrouvé au passage toute sa haine pour le Parti Socialiste, son ennemi intime et stratégique. Comme il a beaucoup à perdre d'une alliance entre socialistes et écolos, eh bien il a décidé d'embarquer tout le monde dans son naufrage. À présent, le Rassemblement national, les Républicains et La République En Marche n'ont plus besoin d'enfoncer le coin. La gauche tape dessus toute seule pour continuer de se diviser et de s'autodétruire.
Merci beaucoup Olivier Bost. Nous reviendrons sur ces questions à 8h20 avec notre invité Mohamed Sifaoui. Il publie la première enquête inédite sur l'islamo-gauchisme dans notre pays, les fossoyeurs de la République, c'est son titre, aux éditions de l'Observatoire. Et puis bien entendu, l'invité politique de 7h40 avec Alba Ventura. Je vous le rappelle aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin, ancien maire de Marseille. Dans un instant, gros plan sur les mariages. Depuis un an, les reports et les annulations s'enchaînent. Nous serons aux côtés d'un couple et d'une organisatrice qui essaye malgré tout de se projeter dans l'organisation du jour le plus important de leur vie. Et avec notre brigade, nous ferons un point sur les chiffres et les prévisions pour l'année à venir. Restez avec nous. Bonne journée à tous. Il est 7h15.
RTL Matin. Yves Calvi.
Les beaux jours sont de retour et avec eux les mariages, mais pour la deuxième année consécutive, organiser une cérémonie est un vrai casse-tête en raison de la pandémie. L'an passé, seuls 155 000 mariages ont été célébrés, un chiffre en recul de 31% par rapport à 2019, et cela pourrait se répéter en 2021. Limitation du nombre d'invités, protocole sanitaire trop strict, établissements recevant du public fermés, cela fait beaucoup de contraintes, de nombreuses réceptions ont déjà été reportées à l'année prochaine. Bonjour Sébastien Rouxel.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez rencontré un couple de Parisiens en plein doute.
C'est la dernière ligne droite pour Mathieu et Claire, 28 et 29 ans, plus que deux mois avant le grand jour. Ce sera dans la partie francilienne du Vexin. Alors on s'active pour finaliser les préparatifs.
Les Vitéken, vu qu'ils sont à l'étranger, ils ne peuvent pas venir. Bah, on mettrait Étienne avec François et Lucie.
Jusqu'à maintenant, tout a été préparé comme si tout allait bien se passer. On attend une décision. Qu'elle provienne soit du lieu de réception, soit du gouvernement, pour savoir ce qu'on fait, si on maintient, si on repousse.
Mais plus la date s'approche, plus le doute s'installe. Il faudra peut-être revoir au dernier moment toute l'organisation.
Aujourd'hui, on est sur une réception d'à peu près 180 personnes. Peut-être que les restrictions qu'on donnera, ce sera de devoir réduire à, par exemple, 100 personnes.
Alors, faut-il maintenir le mariage à tout prix, reporter la fête ? Petit à petit, le stress prend le pas sur le plaisir d'organiser ce moment si important.
Plus on avance et plus on est toujours dans le flou. Surtout qu'à mon avis, on va devoir prendre une décision, allez, un mois même pas du mariage, de ce qu'on va devoir faire. Donc effectivement, c'est quand même un petit stress.
Évidemment, ce ne sont pas les seuls futurs mariés à s'inquiéter.
J'ai commencé à vous dresser une petite planche de déco qui pourrait correspondre à ce que vous
Audrey est organisatrice de mariage. Sa première réception cette année, c'est en mai.
Quand on arrivera mi-avril, là, on fera une grande réunion. Si un mois avant leur mariage, on nous dit, bah oui, effectivement, vous n'avez toujours pas le droit d'organiser des événements type des mariages, à ce moment-là, on réfléchira à une date de report et on le fera en bonne intelligence avec tous les prestataires. Vu que c'est un samedi de haute saison, ce sera un autre samedi sur la saison haute, donc l'année prochaine.
Mais pas question d'être pessimiste, Audrey est certaine de pouvoir leur annoncer une bonne nouvelle dans les prochaines semaines. Après tout, quelques mariages ont pu avoir lieu l'été dernier.
Et pourtant, Sébastien, les professionnels du secteur s'inquiètent de plus en plus d'une nouvelle année extrêmement compliquée.
Oui, c'est le cas de Romain Golupeau, traiteur en région parisienne. L'an dernier, 40% de son chiffre d'affaires est parti en fumée et il ne voit pas pourquoi ce serait différent cette année.
Parce qu'on a un métier extrêmement risqué, à mon avis, pour les pouvoirs publics. Les gens mangent, donc on enlève le masque, les gens dansent. Et puis il y a des anciens, des jeunes, c'est extrêmement compliqué d'entrevoir des réceptions dans les semaines à venir à mon avis. Réouvrir peut-être dans quelques mois avec des contraintes qui seront telles qu'on n'est pas sûr que les mariés puissent les accepter et préféreront reparler d'un nouveau report. Quoi.
Et plusieurs couples ont déjà reporté leur mariage cette année. Tout l'enjeu désormais, c'est d'éviter les annulations.
Parce qu'une annulation veut dire un remboursement d'acompte. Et c'est vrai que c'est une bouffée d'oxygène financière qui vient en complément effectivement des aides que l'on perçoit.
Ces sommes, elles lui permettent de tenir le coup pour le moment, mais une deuxième année blanche, ce serait un vrai coup dur.
Il y a le problème économique d'une part, et il y a le problème humain. Une grosse partie de nos effectifs sont évidemment des extras de la restauration. Et aujourd'hui, un grand nombre de ce personnel n'est plus disponibles sur le marché puisqu'ils ont soit pris des postes en fixe, soit changé de profession. Ça va sûrement poser des problèmes majeurs si jamais ça repart pas sur 2021.
Ces musiques, ces cris de joie, on pourrait les retrouver dans les toutes prochaines semaines. Mais pour cela, il faut organiser des mariages tests. C'est en tout cas l'idée portée par Mélissa Imbert-Ferrand, la présidente de l'UPSE, l'Union des professionnels de l'événementiel.
Donc ça commencerait par tester les invités avant l'événement. Ce serait ensuite respecter les distanciations, les gestes barrières, 6 personnes par table. Et l'idée du protocole et du test avant l'événement, c'est de pouvoir quand même autoriser cette année des soirées dansantes.
Elle espère, comme l'ensemble des professionnels, être
être fixé rapidement pour sauver le plus de mariages possible. En attendant, Mathieu et Claire continuent de préparer leur fête.
On est optimiste, mais...
On n'a pas le choix.
T'es à 90% optimiste, après...
Et une chose est sûre, mariage ou pas cette année, ils ne bousculeront pas leur plan de vie. Surtout pas celui de bientôt fonder une famille.
On leur souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Et pour aller plus loin, eh bien nous allons faire appel à notre brigade de l'actualité. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
L'an dernier, selon l'INSEE, le nombre de mariages a chuté de manière historique à cause, bien entendu, du contexte sanitaire.
Oui, en temps normal, plus de 200 000 couples se passent la bague au doigt chaque année. Mais l'an dernier, le nombre de mariages a dégringolé de 30%. 155 000 mariages ont été célébrés civilement à la mairie et ils ont donné lieu à seulement 40 000 fêtes. Elles ont pu avoir lieu entre août et septembre puisque les célébrations de mariage ont été interdites durant le confinement du printemps, puis autorisées, mais avec une stricte limitation du nombre d'invités. Et pour cette année, en 2021, les organisateurs de mariage ont le sentiment de voir la terre qui s'écroule sous leurs pieds, juste devant eux. Tout s'effondre mois après mois. Les mariages de juin sont quasiment tous annulés et on ne sait pas encore si ceux de juillet pourront être maintenus.
Alors, il y a la déception des futurs mariés, mais c'est un vrai coup dur, on l'a compris, porté à l'économie du secteur.
Oui, l'économie du mariage avoisinait avant les 3 milliards d'euros. Mais l'an dernier, les 55 000 entreprises du secteur ont affiché 70 à 80% de pertes. La moitié du budget d'un mariage, c'est le traiteur. Après, il y a les loueurs de salles, de châteaux, le photographe, le DJ. Mais ils ne peuvent pas exercer. Avant, un mariage, c'était en moyenne 110 invités pour un budget de 15 000 euros. Là, aujourd'hui, sans le cocktail et le dîner dansant, il reste pour un mariage civil ou religieux la robe, le costume, les chaussures, le coiffeur et les alliances, un budget de 2 000 euros, 6 à 7 fois moins. Sans compter tous les à côté, pas d'hôtel et pas de coiffeur ni de tenue pour les invités, vu qu'il n'y en a pas, et plus de voyages de noces, il a disparu de la liste de mariages.
Pourtant, les professionnels devraient pouvoir compter sur les reports de mariage.
Oui, mais non, parce que c'est très lourd un report. Les mariages décalés pour la deuxième ou troisième fois cette année vont vers des annulations, et les professionnels doivent rembourser les acomptes reçus en 2019, il y a 12 ou 18 mois. De leur côté, les mariés ne vont pas chercher leur robe, commandée et partiellement payée, tant qu'ils n'ont pas la date, donc ils attendent pour payer le solde à ce moment-là. Et s'ils décalent d'un an, comme les mariages généralement ont lieu les samedis et qu'il n'y en a que 25 entre mai et septembre, les professionnels ne peuvent pas organiser de nouveaux mariages. Donc cela fait pour eux 3 années sans rentrée d'argent, mais surtout c'est très dur moralement pour les futurs mariés.
Bon alors dites-nous tout, il y a une solution.
Oui, les professionnels du mariage demandent effectivement aux élus d'organiser des mariages tests de 80-100 personnes avec un test PCR de moins de 72 heures pour les invités, le port du masque obligatoire sur la piste de danse avec tout un protocole. Ils espèrent gagner ne serait-ce qu'une semaine, 15 jours ou 3 semaines dans la saison des mariages. Ils en sont à essayer de sauver la fête des quelques mariages de 2021 qui pourraient encore se tenir. Mais la décision est entre les mains des pouvoirs publics.
Bon, nous dirons ce matin, cher Armelle Lévy, que l'amour gagne toujours. Et on vous souhaite bon courage. En tout cas, on souhaite bon courage à tous les futurs mariés et à tous les professionnels du secteur. Dans quelques instants et dans un esprit de compréhension mutuelle et réciproque, la farandole d'RTL juste avant 7h30, en l'occurrence, la météo de Louis Baudin, splendide.
Oh bah magnifique.
Voilà. La pépite musicale d'Anthony Matin, magnifique.
Oh oui, j'espère.
Je compte sur vous. Et ensuite, nous retrouverons Laurent Ruquier et ses petits camarades. Restez avec nous, à tout de suite.
Cette semaine sur RTL, à l'occasion des fêtes de Pâques, tous les auditeurs qui passent à l'antenne remportent un assortiment d'1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges, composé d'un coffret de lapin en guimauve, enrobé de chocolat, de petits œufs garnis et de chocolat Jeff de Bruges spécial Pâques, de quoi faire plaisir et vous régaler.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h26, la pépite musicale d'Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour, bonjour à tous. Alors dans son livre qui vient de sortir et qui a pour titre « Chansons sur toi et nous », Françoise Hardy commente les textes qu'elle a écrits et il lui arrive d'évoquer aussi d'autres auteurs qui ont travaillé avec elle. Elle cite notamment Patrick Modiano, devenu cet immense écrivain, prix Goncourt, puis prix Nobel de littérature. Bien avant cela, à l'âge de 21 ans, Patrick Modiano menait de front l'écriture de son premier roman et l'écriture de chansons. Il avait pu faire passer ses textes à un auteur qui travaillait pour Bardot et Hardy via Anna Karina, une amie de sa famille. C'est comme ça que Françoise Hardy est tombée sur ce premier texte signé Modiano qu'elle a immédiatement enregistré.
Étonnez-moi, Benoît, je l'ai du coco. Accrochez-vous au rideau, Benoît, attrapez-moi au lasso. Et je mange au rodéo, étonnez-moi.
Étonnez-moi Benoît, joli succès ouais, de 1969. Alors ce qu'on connaît moins, ce sont les 3 autres textes que Patrick Modiano a donné dans la foulée à Françoise Hardy. Écoutez ce petit bijou, je fais des puzzles. En attendant son homme, Françoise fait des puzzles.
Il est parti en
raconter l'histoire de sa vie en chanson. C'est une des pépites de l'album Soleil, sorti en 1970, album dans lequel on trouve cette autre chanson écrite par Patrick Modiano pour Hardy, San Salvador, sur un air folklorique très connu. Voilà, pour ces pépites signées Modiano, on les trouve dans les recoins du répertoire de Françoise Hardy. Le troisième texte pour Hardy s'appelle « À cloche-pied sur la grande muraille de Chine ». C'est une adaptation seulement sortie à l'étranger. Par ailleurs, on trouve deux chansons signées Modiano chez Régine, il faut le savoir. Et Sheila a failli chanter du Modiano. La chanson aurait pu s'appeler « Les romans photos ». Mais son producteur Claude Carrère s'y était opposé au dernier moment parce qu'il trouvait le texte trop sombre. Il ne voulait pas que la fille, à la fin, se jette sous le métro.
C'est très bien, c'est un festival et j'en profite pour vous souhaiter un excellent anniversaire, oh, Anthony Martin.
Merci. Gentil.
Donc toute l'équipe d'RTL vous embrasse affectueusement. Beaucoup. Anthony, on prolongera le plaisir d'entendre Françoise Hardy tout à l'heure à 9h. Dans Laissez-vous tenter, Stephen Bellery l'a rencontré pour quelques confidences autour de ses chansons à l'occasion de la sortie de son dernier livre. À 9h dans Laissez-vous tenter. Changement d'ambiance. Nos grosses têtes nous accompagnent chaque après-midi de 15h30 à 18h. Laurent Ruquier, ses sociétaires et leurs fake news.
On a tout bien fait depuis le début. On est les plus forts. On est les rois des masques, des tests, des vaccins. Olivier Révan est toujours ministre de la Santé.
Jean-Phi Janssen.
Oui, oui, oui. À cause des salles fermées en France, les humoristes vont jouer à l'étranger. Bernard Mabie, qu'on a vu nager dans le canal de Suez, est maintenant prié de rentrer.
Emmanuel Macron a tenu à prévenir les Français. Les semaines qui viennent seront difficiles. D'après un sondage réalisé aussitôt après son intervention, 90% des Français ont répondu « C'est vrai que les semaines qui sont passées étaient super cool.
» Autour de la table des grosses têtes, cet après-midi de 15h30 à 18h, et dans le grand studio, Pierre Palmade, Gérard Jugnot, Isabelle Mergault, Ariel Dombal, Christine Ockrent et Michel Faux. Louis Bodin, la météo est magnifique.
Oui, elle est magnifique, c'est très simple là pour les prévisionnistes de faire le travail avec du soleil pour tout le monde. Quelques rares brouillards, un brouillard givron trouvé à Charleville-Mézières ce matin. Et puis côté température, sous ce soleil, bien grand écart encore entre ce matin où les températures sont entre 4 et 9 degrés, moins de gelée qu'hier matin, et cet après-midi où on va encore gagner 1 ou 2 degrés par rapport à hier. C'est incroyable, 22 à 25 degrés dans la plupart des régions, 21 degrés près de la Méditerranée.
Tout est dit, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Agnès Bonfillon pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 30 mars. Bonjour Agnès.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Débutons ce journal par un témoignage très fort. Celui de Françoise Hardy, très malade depuis des années. L'artiste de 77 ans sait qu'elle ne pourra plus jamais chanter. Elle est très clairement en faveur de l'euthanasie. Elle n'a pas attendu d'être concernée. Écoutez, c'est un document RTL.
À partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrances et où il n'y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. C'est humain. Ma mère, elle a eu la maladie de Charcot qui est absolument insupportable. Et ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. De savoir que son médecin pourrait l'aider et faire en sorte qu'elle soit euthanasiée quand elle ne voudrait plus continuer à vivre cette horrible maladie, ça a été un confort extraordinaire. Il faut que la France en fasse autant, enfin. Il faut faire cette loi.
Françoise Hardy avec Stephen Bellery. Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien dans Laissez-vous tenter à 9h.
Alors avant cela, autre invité d'RTL ce matin, Jean-Claude Gaudin, qui sera en studio juste après votre journal.
L'ancien maire de Marseille publie ses mémoires, l'occasion de revenir sur ses 25 années à la tête de la cité phocéenne. Bilan entaché par un drame, celui des effondrements de la rue d'Aubagne. C'était il y a 2 ans et demi, 8 personnes décédées dans ce qui est devenu le symbole de la vétusté et du mal logement. La nouvelle municipalité a promis que les choses allaient changer. Il n'empêche, le militant Kevin Vachet du collectif du 5 novembre aimerait que Jean-Claude Gaudin éclaircisse encore un point.
Mais je pense qu'il manque un truc dans ses mémoires, c'est le passage où il rencontre les familles des victimes, tout simplement parce que c'est jamais arrivé. Je me souviens très bien qu'on était dans son bureau un mois et demi après les effondrements. Et la seule chose qu'il nous a montré, c'est juste un courrier qu'il avait envoyé quelques jours avant. Bah, j'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'il peut expliquer qu'il n'a pas dormi après l'effondrement et qu'à un moment donné, il n'a pas pensé aux 8 familles qui ne dormaient pas non plus et qu'il aurait pu lui passer un coup de fil.
Des propos recueillis par Hugo Hamelin.
Alba Votura posera la question à Jean-Claude Gaudin, invité d'RTL, dans quelques minutes, dès la fin de ce journal, Agnès.
La crise sanitaire, alors que le pic de la deuxième vague, à l'automne dernier, est désormais dépassé. Près de 5000 malades Covid sont actuellement hospitalisés en réanimation. Un nouveau conseil de défense aura lieu demain. D'ores et déjà, une règle s'applique en milieu scolaire. Un cas de contamination entraîne automatiquement la fermeture d'une classe pour au moins une semaine. Autant dire que les parents sont de plus en plus nombreux à devoir s'organiser du jour au lendemain. À Paris, Benjamin a dû se débrouiller hier pour garder sa petite fille de 3 ans tout en télétravaillant. Pas simple.
Mais non, c'est pas facile, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc, c'est-à-dire que vous essayez de faire des journées conventionnelles au premier confinement, ce qui était impossible parce que du coup, c'était assez dur de cohabiter avec les enfants. Là, du coup, je m'organise différemment. Donc le matin, quand elle n'est pas réveillée, moi je travaille sur une plage horaire très tôt. Je joue avec elle jusqu'à 6h, 6h30 quand elle se recouche. Du coup, je retravaille le soir. Donc je réorganise un peu mes plages horaires pour pouvoir faire quand même du travail un peu intense.
Des propos recueillis gentil par Julie LG pour RTL, un super papa. De plus en plus de classes qui ferment. Autre chiffre en augmentation, celui des contrôles. Pour la seule journée de vendredi, 66 000 personnes ont dû justifier la raison de leur déplacement. Elles ont été plus que d'habitude, 10%. À recevoir une contravention. Et ça devrait encore s'intensifier, Guillaume Chiez.
Oui, Gérald Darmanin a souhaité mettre l'accent sur deux axes. D'abord, l'interdiction de changer de département pour les 19 territoires concernés par les restrictions renforcées, d'où la multiplication des opérations de contrôle dans les gares, les aéroports et sur les péages autoroutiers ce week-end. Deuxième axe, le respect de la règle qui interdit de se rassembler à plus de 6 personnes. Vendredi, samedi et dimanche, 90 000 gendarmes et policiers étaient donc mobilisés avec un accent prononcé sur les départements où les règles sont les plus strictes. 66 000 personnes ont été contrôlées avec une augmentation de 10% des contraventions dressées pour la seule journée de vendredi. Des chiffres en hausse mais qui restent loin de ce que l'on a connu lors du deuxième confinement où plus de 90 000 contrôles étaient effectués en moyenne chaque jour.
Guillaume Chiez pour RTL. Concernant le maintien des élections régionales en juin prochain, le Conseil scientifique laisse l'exécutif se débrouiller. Il ne donne pas un avis tranché. Ce sera donc au gouvernement, in fine, de décider si le scrutin peut avoir lieu et dans quelles conditions. Au Royaume-Uni, ce 29 mars restera comme un Happy Monday. Le lundi heureux, hier à Londres, aucun mort du Covid n'a été enregistré. Outre-Manche, le confinement est encore allégé avant la réouverture totale des terrasses et des commerces le 12 avril prochain. 60% de la population adulte a d'ores et déjà reçu une première dose de vaccin.
Mais en pleine crise sanitaire, certains aimeraient avoir autant de coups de fil que ce commerçant d'Antibes.
Ou pas, car depuis ce week-end, ce gérant d'une épicerie fine n'est pas submergé d'appels pour du click and collect, non, mais pour se faire vacciner. En fait, Varmatin s'est trompé en imprimant le numéro de téléphone d'une mairie à deux chiffres. Eh bien, tout le monde appelle Frédéric Rosenfelder.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur Sébastien Rouxel, je suis journaliste à RTL.
Ah, c'est pas le vaccin. Depuis deux jours, on ne fait que de m'appeler pour le vaccin. C'est un enfer. C'est pratiquement 250 appels dans trois jours. Là. À peine raccroché, ça redécroche. Au début, je voulais laisser le téléphone décrocher, mais comme c'est pour le vaccin, je me suis dit, bon, tous les gens qui appellent ont sûrement entre 70 et 90 ans, hein, mais des gens adorables. Par contre, c'est pour ça que je réaiguille systématiquement. C'est pour la bonne cause, on va dire.
Il garde le sourire, ce commerçant anti-bois, en tout cas, propos recueillis par Sébastien Rouxel.
C'était le Tout Info avec Agnès Bonsillon. On se retrouve à 8h40 hein, pour la face cachée de la Une.
Oui, nous parlerons des chasseurs de trésors, un loisir, une passion de plus en plus répandue que les autorités ont de plus en plus de mal encadré.
Merci Agnès, à tout à l'heure. Bonjour François.
Bonjour Yves.
François, la faillite d'un gros investisseur va causer des milliards de pertes.
Oui, et les accidents se multiplient ces derniers mois sur les places financières. On dirait que les chaussures commencent à tomber de l'arbre, comme on dit en anglais. Et si ces accidents étaient les signes avant-coureurs d'une crise boursière ? Eh bien, on explore cette possibilité dans un instant.
A tout de suite pour l'Angle Éco avec François Langlais.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'Angle Éco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Et voilà que Wall Street, cher François, connaît un nouvel accident financier.
Oui, c'est en effet un fonds d'investissement qui s'appelle Archegos qui s'est trouvé contraint de vendre précipitamment des titres après avoir fait des paris aventureux. Il était investi sur les bourses américaines et chinoises à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Conséquence, les banques qui lui avaient prêté de l'argent, Crédit Suisse, le japonais Nomura, vont perdre des milliards. Et l'affaire a fait chuter toutes les bourses mondiales. Ça semble être l'une des plus grosses faillites de fonds des dernières années. On ne connaît même pas encore l'étendue exacte des pertes.
Mais François, comment des banques aussi réputées que par exemple le Crédit Suisse peuvent-elles se faire prendre dans des opérations aussi risquées ?
Ouais, c'est ça qui est incroyable. Et ça l'est d'autant plus que le dirigeant du fonds incriminé, c'est un Américain d'origine coréenne, il s'appelle Bill Wang, a été condamné pour délit d'initié il y a quelques années. C'est malheureusement assez révélateur des pratiques actuelles où l'argent est tellement facile pour la planète financière que l'on prête sans retenue et à des prix incroyablement bas. Conséquence, les acteurs les plus imprudents, voire les escrocs, parce qu'il y en a aussi, parviennent à se financer sans difficulté. Plus encore que l'affaire Archegos en elle-même, c'est la multiplication des tôles récentes qui est inquiétante, parce que c'est souvent le signe avant-coureur d'une forte secousse, voire d'une crise sur les marchés financiers.
On a bien compris. Les affaires de ce genre sont-elles finalement si nombreuses ?
Ah bah c'est impressionnant. Tout récemment, il y a eu le scandale Greensill, c'est une société financière qui a fait faillite, qui a coûté encore plusieurs milliards, à Crédit Suisse d'ailleurs en particulier. Wirecard, c'était une start-up allemande qui avait bidonné ses comptes à hauteur de près de 2 milliards de dollars. Crédit Suisse, décidément abonné aux tuiles, figure parmi les victimes. Puis il y a eu aussi WeWork, bon là aussi c'était une start-up américaine cette fois-ci. Elle a connu aussi la déconfiture après des pratiques, disons, contestables. Ce qui est frappant dans toutes ces affaires, c'est que la prudence élémentaire de la part des prêteurs, oui. Et puis les contrôles de la part des autorités de régulation qui sont censées les faire, eh bien, ils ont été complètement oubliés.
Mais comment expliquez-vous un pareil relâchement ?
Vous savez, la hausse des marchés financiers, elle-même causée par les politiques de soutien massif à l'économie, aux États-Unis, en Europe, partout sur la planète, donne le sentiment que on gagne à tous les coups. C'est le problème des taux d'intérêt à 0% comme aujourd'hui. Ils servent bien à stimuler l'économie, mais ils sont aussi une incitation à emprunter de façon déraisonnable, y compris pour les mauvaises affaires. Ça a fini par faire disparaître, non pas le risque lui-même, il est toujours là, bien sûr, mais le sentiment du risque, la crainte de perdre. Or, cette crainte, c'est un élément indispensable pour stabiliser les marchés. Quand les investisseurs n'ont plus peur du tout, mécaniquement, ils font des bêtises. Les marchés sont alors soumis à des mouvements excessifs, à la hausse d'abord, et puis à la baisse avec une sévère correction. Et ce sont évidemment toujours les plus fragiles qui tombent les premiers. On prête, vous savez, au richissime financier Warren Buffett une formule qui résume bien la situation actuelle. Quand la marée se retire, on voit ceux qui nagent sans maillot de bain.
On ne résiste pas à l'appât du gain et à l'argent pas cher, si je vous ai bien compris, cher François Langlais. Merci infiniment. On vous retrouve sur le site RTL.fr. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille, il publie ses mémoires aux éditions Albin Michel. Le titre, Maintenant je vais tout vous raconter. Vraiment tout ?
Je pense oui. En tout cas, je m'appuie sur des faits largement vérifiés.
A tout de suite Jean-Claude Gaudin. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h42.
RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin. Avec Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui publie ses mémoires intitulées « Maintenant, je vais tout vous raconter ».
Bonjour Jean-Claude Gaudin.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, donc à 81 ans et après 5 ans de vie politique. Effectivement, vous publiez 50 ans de vie politique, vous publiez « Maintenant, je vais tout vous raconter ». Le livre fait 500 pages, c'est dire qu'il y en avait des choses à raconter. Jean-Claude Gaudin, ce que l'on ressent quand même en lisant ce livre, c'est une sorte de goût de revanche. Sous-entendu, allez, on peut dire ce qu'on veut de moi, mais voilà comment je me suis construit, et moi, on ne m'a rien donné.
Oui, c'est tout à fait ça, Madame Ventura, parce que tout ce que j'ai pu gagner comme mandat autour d'une vie politique de plus de 50 ans, je l'ai pris sur la gauche. Et je n'appartiens pas à une famille d'héritiers. Souvent, dans la vie politique, j'ai eu des amis dont le papa étaient parlementaires avant eux. Il y a des gens qui sont riches, qui ont des facilités financières très fortes pour des campagnes électorales, ou qui ont des circonscriptions un peu préparées. Ben, moi, j'ai dû tout conquérir moi-même. étape par étape.
Vous vous rappelez que votre papa était artisan
maçon? Oui, mon père était artisan maçon, il aurait été du mouvement républicain populaire à l'époque, et c'est un peu ce qui m'a amené aussi dans la vie politique, avec l'influence de l'Église aussi, parce que nous étions une famille catholique, je le suis resté, et on m'a appris qu'il fallait être au service des autres. C'est ça mon engagement politique.
Sans vouloir vous offenser, alors vous rappelez vos origines, mais je rappelle quand même 11 ans député, 28 ans sénateur, 12 ans président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 ans ministre, 25 ans à la tête de la mairie de Marseille. Pardon, vous avez été bien plus un notable qu'un petit chose, hein ?
Oui, ben, il faut dire que j'ai eu des adversaires, on se grandit, me dit-on, par rapport aux adversaires qu'on a eus. Moi, je me suis opposé à Gaston Defferre, à Bernard Tapie, à Jean-Marie Le Pen, bon, et même à
et
d'autres.
Et ça a fait quoi de vous, alors ?
Ben, ça a fait de moi un parlementaire, d'abord, parce que dans la vie, il faut être parlementaire. J'ai expliqué ça un jour au président de la République actuelle. Nous étions tous les deux, je l'avais invité à déjeuner, il était ministre de l'économie encore. Je lui ai dit, vous savez, il faut être parlementaire. Il m'a dit, mais moi, je ne veux pas être député, je veux être président de la République. Et à quelque temps de là, où on déjeunait un jour au Sénat à l'invitation du président Larcher, et quand il a fait le tour de la table, j'étais premier vice-président du Sénat, donc j'étais là, il m'a dit, vous avez vu Godin ? Je vous avais dit que je serais président de la République. Et après, il m'a réinvité dans le même restaurant où moi, je l'avais invité.
Mais donc, vous vous êtes trompé ?
Absolument pas avec lui, mais avec les autres, oui. Vous savez, Marseille, c'est une longue histoire, parce que Gaston Defferre, pendant 24 ans, a gouverné avec la droite. Moi, je suis un élément de la droite républicaine. Puis, quand il y a eu le programme commun, etc., à Paris, et qu'il est devenu, effectivement, un ami de Mitterrand, à partir de ce moment-là, il y a eu la rupture. Et la rupture m'a permis à moi, dès 78, de devenir député, d'être 4 fois député. Et puis après, en 89, j'ai décidé qu'il valait mieux que j'aille à la Haute Assemblée. Mais j'ai présidé le groupe UDF de l'Assemblée nationale pendant 9 ans. Hein.
Vous n'êtes pas très tendre avec vos potentiels héritiers. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas su désigner un héritier à Marseille.
Non,
vous
parce
vous êtes
que...
fait balayer aux dernières municipales.
Alors, non.
Bon, même si c'était la fin.
Je n'aime pas. C'est une forme de journalisme d'essayer de désigner des dauphins. Dans la vie démocratique, ce sont les électeurs qui choisissent. Et on ne peut pas choisir de dauphin, on ne peut pas choisir d'héritier. Voilà. Et la presse, aux dernières élections, considérait que Mme Vassal, que je soutenais, que j'ai toujours connue depuis longtemps, était mon héritière. Elle, ça ne lui convenait pas, et moi, pas davantage. C'est le peuple qui doit choisir. Il n'y a pas d'héritier. Alors, par contre, il y a eu quantité de gens, même dans le camp de la droite républicaine et du centre à Marseille, qui auraient bien aimé prendre ma place. Oui, sauf que moi, j'ai été élu et réélu. C'est les Marseillais qui l'ont voulu. Voilà.
Alors, vous dites dans votre livre, ma passion a été Marseille. Jean-Claude Gaudin, maintenant que vous avez un peu de recul, est-ce que vous avez fait le mandat de trop ?
Alors, je m'étais interrogé en 2014 de savoir si je faisais ce 4e mandat. En fait, c'est ma plus belle élection. C'est la fois où j'ai été le plus facilement élu. J'ai fait 61 sièges sur 101.
Un accord avec la gauche en 2014, et alors, notamment avec une proche de Jean-Noël Guérini.
Oui, avec une proche de Jean-Noël Guérini, effectivement, où ma liste était arrivée dans ce secteur en tête, avec une femme qui s'appelle Solange Biagi, d'origine corse. Mais nous nous sommes alliés avec une amie à l'époque, ils ne sont plus amis, avec M. Guérini, ce qui m'a permis d'avoir 61 sièges, alors qu'à ce moment-là, Renaud Muselier ne participait plus à ma coalition. Oui, Muselier m'a souvent malmené, donc il y a un peu mes réactions, mais je dis pour solde de tout compte. Je suis d'un camp et je ne suis pas de l'autre. Quand arriveront les élections départementales et régionales, elles vont bien avoir lieu ces élections. Bon, on ne peut pas enjamber jusqu'après les présidentielles et les législatives. Je soutiendrai, bien entendu, les amis de mon camp, donc Mme Vassal et M. Muselier.
Mais donc, vous n'avez pas fait le mandat de trop ?
Moi, je considère que non.
Mais,
attendez, évidemment que c'est long, 25 ans. C'est long, surtout pour se battre. Vous dites que j'ai toujours eu cet ancrage à Marseille. J'ai souvent souffert de manque d'aide de l'État, que l'État ait été de droite ou que l'État ait été de gauche, pour la ville de Marseille. Prenons un exemple actuel.
Euroméditerranée a été financée en partie par l'État.
Oui, bien entendu.
C'est un gros projet, le port autonome de Marseille.
Nous devons cela à M. Édouard Balladur, avec qui j'ai toujours eu d'excellentes relations. Mais pour prendre un événement du jour, à Paris et à Marseille, les agents des hôpitaux ont une prime pour le logement. Dans la deuxième ville de France, où nous avons 15 000 agents dans les hôpitaux de la ville de Marseille, je n'ai jamais pu obtenir cette prime pour les 15 000 agents de l'assistance publique. Alors qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons dramatique, l'assistance publique de Marseille a très bien résisté.
On a le sentiment, en lisant le livre Jean-Claude Gonin, que vous sous-estimez quand même l'état dans lequel vous avez laissé Marseille. C'est quand même une ville qui a été pointée du doigt par la Cour régionale des comptes, par le parquet national financier qui a mené une enquête pendant 4 ans. Tout ça, c'est pas rien, pardon.
Non, c'est pas rien, bien sûr. La Chambre régionale des comptes ne fait jamais de cadeau. Simplement, ce que j'ai reproché justement au président de la Chambre régionale des comptes, qui avait été le directeur de campagne de M. François Hollande, c'est de ne pas prendre en compte mes réponses. J'ai eu réponse à tout. Et la Chambre des comptes n'en a pas tenu compte. Et ça, c'est quelque chose qui m'a blessé. Quant au parquet financier, effectivement, qu'est-ce qu'on me reproche? Il y a 13 700 employés municipaux dans la ville de Marseille.
Agents mieux payés par rapport à la moyenne nationale, mais dont le temps de travail est inférieur à la durée légale.
Non, si vous voulez qu'on entame le débat, ils sont payés normalement et traditionnellement. Alors on me dit, vous avez donné trop d'heures supplémentaires, etc. Si on n'avait pas donné les heures supplémentaires, d'abord, il fallait un calme social dans cette ville, et ensuite, les gens qu'on aurait embauchés auraient été payés plus cher. Qu'est-ce qu'on me reproche aujourd'hui? 5 personnes qui, à mon cabinet, ont dépassé 70 ans. Quand ils sont rentrés à mon cabinet, ils n'avaient pas 70 ans. J'en ai gardé 5, dont mon directeur de cabinet, qui a fait 40 ans de vie politique avec moi. C'est ça qu'on me reproche. Alors je trouve quand même que c'est un peu excessif. Il aura fallu que j'attende un peu plus de 81 ans pour recevoir un matin la visite des gendarmes et de deux
juges. Une perquisition et une garde à vue.
Voilà.
Vous craignez un procès ?
Je n'en sais rien. Je pense vraiment que ce serait très excessif. 5 personnes à mon cabinet qui ont travaillé, car quand ils sont venus, les gendarmes et les juges croyaient qu'il y avait des emplois fictifs dans la ville de Marseille. Sous ma direction, il n'y a jamais eu d'emploi fictif à la ville de Marseille.
Jean-Claude Gaudin, l'effondrement de la rue d'Aubagne, le 5 novembre 2018, vous dites une trace indélébile. Là aussi, il y a eu plusieurs arrêtés de péril. Dès 2010, il y a un de vos anciens adjoints qui est mis en examen. Oui. Dans le journal de 7h30, un des membres du collectif du 5 novembre vous demande pourquoi vous n'avez jamais reçu les familles.
J'ai reçu, bien entendu, les familles à l'hôtel de ville et mes adjoints se sont occupés d'eux. Lorsqu'il y a ce drame terrible qui me hante tous les jours, parce qu'il y a eu 8 morts, et donc j'y pense sans arrêt, le préfet a souhaité qu'on évacue 2000 personnes. Je me suis occupé de ces 2000 personnes, de les alloger dans les hôtels. On les a nourris le matin, à midi, le soir. Ensuite, on leur a trouvé des logements, sauf pour quelques-uns qui sont récalcitrants et qui refusent de trouver les logements qu'on leur propose. C'est un drame. Mais attendez, à Paris, il y a eu un drame à la rue de Trévise. Il y a eu 4 morts aussi. Et on n'a pas dit que c'était Madame Hidalgo qui était responsable de cela.
Mais pas pour les mêmes raisons. Vous savez qu'il y a un des immeubles qui est resté sans toit pendant 3 ans à la rue d'Aubagne.
Non. Non. Il y a eu à la rue d'Aubagne, comme dans Marseille centre, des immeubles qui appartiennent à des copropriétés. Ces copropriétés, pour faire des logements plus salubres, parce qu'ils étaient insalubres, j'ai fait 3 accords. Un accord d'abord avec Madame Marie-Noël Liedman lorsqu'elle était en fonction. Un accord avec Jean-Louis Borloo et même avec le jeune Julien de Normandie. Cependant, on n'est pas à l'abri de ce genre de drame, et à ce moment-là, on a l'habitude de rendre le maire responsable de tout.
Monsieur Gaudin, j'ai une dernière question politique. Xavier Bertrand vient de déclarer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022. Vous pourriez le soutenir ?
Xavier Bertrand, je le connais bien, c'est quelqu'un... nous avons un peu une similitude, si vous voulez. Xavier Bertrand, il se présente aujourd'hui en opposition à ces gens de Paris... qui savent tout, qui connaissent tout, qui ont fait les grandes études, ENA, Polytechnique, tout ça. Eh bien, il fait un parcours où j'ai fait, moi, un parcours plus modeste, un peu semblable au sien. Mais, cependant, j'appartiens encore à une famille politique. J'attendrai un peu de savoir, malgré toute l'estime, l'amitié que j'ai pour Xavier Bertrand, de ce que fera la famille politique à laquelle j'ai toujours été membre et que j'ai beaucoup servi, puisque vous savez que j'ai présidé pendant à peu près 7 ans la commission des investitures de l'UMP.
Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Claude Gaudin. Maintenant, je vais tout vous raconter. Ce sont vos mémoires aux éditions Albin Michel.
Je n'appartiens pas à une famille d'héritiers. J'ai dû me construire tout seul, vient de nous dire Jean-Claude Gaudin. Sous ma direction, il n'y a jamais eu d'emploi fictif dans la ville de Marseille. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, Cyprien Sini surfe avec les écoles françaises. Cyprien, qui, je le rappelle, est un soutien effectif de l'Olympique de Marseille.
Bonjour.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
On est bien dans le fauteuil du maire, dans le fauteuil du maire de Marseille.
Pas mal.
Oui, c'est ça. Bah, Cyprien Sini.
Il y a des soucis quand même.
Voilà, c'est à vous.
Mesdames, messieurs, la France, le pays où on garde les écoles ouvertes, tous nos voisins ont fini par les fermer, mais nous, on tient bon, hein, c'est notre fierté. Et le ministre de la Santé convoque même Nelson Mandela.
Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Mmh. Et être parvenu à maintenir les écoles ouvertes sera une force pour la jeune génération.
Et là, ben, jeu, set et match.
Ça, désormais, on le sait, les indicateurs dans les écoles ne sont pas bons.
Pop, 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 oiseau de mauvais augure, qu'à cela ne tienne, action, réaction.
Nous fermerons dorénavant chaque classe au premier cas de contamination.
Ah. Et voilà, emballé, c'est pesé, on continue.
Tout va très bien, madame la marquise.
Nickel, tout va bien, protocole renforcé, un cas, on ferme. Et puis pour la cantine...
Ah non, toujours les mêmes règles à respecter.
Mais oui, pas la peine pour la cantine, parce que...
Tout va très bien, madame la marquise.
Tout va très bien, et puis en plus, avec ce protocole, un cas, on ferme, c'est génial. Tous les jours, c'est un peu le suspense pour les parents. Grâce au protocole, on a un nouveau jeu en famille, on tourne de la roue de la vie et... Kevin ira-t-il à l'école demain ? Et oui, chaque jour, une surprise idéale pour s'organiser. Avant-hier, par exemple, chez la petite Alice, on a joué et...
Coup de fil de l'école hier, l'un des camarades d'Alice est positif et la classe a fermé ce matin.
Oh, c'est perdu pour Alice et ses parents. Du coup, pas le temps de s'organiser et...
J'ai demandé aux grands-parents de venir garder le petit pendant que moi, je travaille.
Eh ben parfait, c'est les grands-parents à la maison. Mais attendez, je croyais que...
Évitons que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école.
Ah. Mais par contre, maintenant, ils peuvent venir à la maison les garder quand ils sont qu'à contact, hein, parce qu'on peut pas faire autrement. De façon jolie, bien joué, le coup des fermetures surprises. Bon, après, comme c'est compliqué, les écoles, le mieux, c'est quand même de demander à ce chef de service Réa sur BFM ce qu'il en pense.
Sur la question précise des écoles, je n'ai pas de sentiment.
Ok, merci. Hein. Faut dire qu'on n'est pas aidé. Hein. Mais alors, quand elle ferme la classe, elle dure combien de temps la fermeture ?
7 jours, à partir du moment où un élève est déclaré positif.
Bah, au moins, c'est simple. 7 jours. Comment ça, c'est pas fini ?
Ce sont les enfants testés positifs qui doivent rester au minimum 10 jours confinés à la maison.
Oui, donc c'est maxi 10 jours. Ah, mais on me signale qu'il y a...
Et ce jackpot, la chance va-t-elle vous sourire ?
Un super jackpot, plus que 10 jours !
Si un enfant vit dans une famille où il y a un malade, en tant que cas contact d'un proche, l'enfant doit rester confiné à la maison 17 jours.
Ah ouais.
Oh oui, 17 jours, tout le monde malade à la maison, vous rajoutez au milieu un peu de télétravail, des travaux chez le voisin, et vous vous dites quand même que... Ouais, mais alors ça, c'est pas forcément bon signe. À chaque fois qu'il fait beau, on confine. Vivons la semaine prochaine, du coup. Hein.
On vous retrouve ce soir avec Thomas Soto. Merci, c'est pas rien signé. Le soleil est installé en quelques mots.
Ah oui, oui, il est installé. Il le sera toute la journée sur toutes les régions. Un peu de vent d'autant sur la région Toulousaine. Puis alors, les températures cet après-midi, 22 à 25 degrés au nord comme au sud. Hein. C'est encore un peu plus chaud qu'hier.
Merci, Louis Baudin, RTL. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, le casse-tête des stocks.
Que faire du surplus des commerces fermés ? L'idée de solde exceptionnelle est finalement écartée. Nos informations dans ce journal. À suivre aussi les patients de plus en plus jeunes dans les services de réanimation. Et puis dehors, en citoyen. Et si on votait en extérieur pour les régionales ?
RTL Matin.
C'est l'un des départements les plus touchés par le virus, la Seine-Saint-Denis, près de Paris. Le taux de positivité frôle désormais les 12%, 4 points de plus que la moyenne nationale. Et surtout, Agathe Landais, vous l'avez constaté à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, les malades accueillis en réanimation sont de plus en plus jeunes et même très jeunes.
Oui, dans ce service réanimation, il y a 20 lits dédiés au Covid, tous occupés notamment par des patients jeunes. Le chef du service, Daniel Da Silva.
Nous avons un jeune patient de 30 ans qui n'a aucun antécédent, dans un état gravissime, une atteinte respiratoire extrêmement sévère. D'ailleurs, comme vous voyez, il est sur le ventre. Dans la chambre numéro 4 que vous voyez là-bas, nous avons un patient de 39 ans.
Donc ça, c'est de plus en plus courant ces derniers temps que vous voyez des patients qui ont moins de 50 ans.
Ah oui, tout à fait. Nous avons eu des jeunes femmes enceintes qu'on a pris en charge pour des Covid gravissimes, qui avaient respectivement 26 et 34 ans, et notamment une de 23 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau.
Des hommes et des femmes jeunes, et certains cas marquent les esprits. Jérôme Daudet, cadre de santé.
On a une femme enceinte qui est arrivée, elle a été césarisée, son enfant est décédé. Donc quand elle va se réveiller, elle n'aura pas son enfant. Donc c'est plein de situations dramatiques.
Sarah Piazza est la psychologue du service. Elle est régulièrement confrontée à la détresse du personnel.
La fatigue et l'inquiétude et aussi parfois la colère deviennent de plus en plus importantes. On a des patients beaucoup plus jeunes, donc ça confronte aussi à des situations qui sont beaucoup plus violente à gérer, notamment parce qu'on peut s'identifier plus facilement. Toutes ces situations-là créent un climat difficile.
Car aujourd'hui, la moyenne d'âge des patients de ce service réanimation est de 50 ans, près de 10 ans de moins que lors de la première vague.
Reportage signé Agathe Landais. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Ce sont des chiffres effrayants qu'on vient d'entendre. Mais au-delà de la Seine-Saint-Denis, que sait-on de l'âge des patients en réanimation?
Il a baissé au niveau national, pas de 10 ans comme dans cet hôpital, mais de 2 ou 3 ans en moyenne, 64-65 ans en ce moment, contre 67 ans lors de la deuxième vague à l'automne, selon Santé publique France.
Et on sait pourquoi?
Plusieurs hypothèses. Les effets de la vaccination, les plus de 75 ans vont donc moins à l'hôpital. Les plus âgés se protègent plus. Beaucoup font très attention avant notamment leur injection. Alors que chez les trentenaire, quadra, quinquale, il y a sans doute un relâchement, une lassitude face à cette crise qui n'en finit pas. Invitation à la maison, regroupement dehors sans précaution. Et comme le variant anglais est plus dangereux, les formes sont plus graves.
Sophie Orange.
On vous retrouve dès la fin du journal, Sophie, pour notre brigade RTL. Et le dilemme en ce moment dans nos écoles, il est 8h04. Les élections régionales pourront-elles se tenir en juin? Le conseil scientifique botte en touche.
Dans son avis, publié hier soir, il met en garde contre les risques sanitaires d'une campagne et d'un afflux des électeurs dans les bureaux de vote, mais laisse au gouvernement le soin de trancher. Matignon rendra d'ailleurs son propre rapport demain aux parlementaires. Et pourquoi ne pas voter dehors? C'est la proposition d'un élu, le président UDI du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou. Il s'en explique à Marie Mollet.
En Israël, les élections ont pu se tenir parce que des bureaux de vote ont été installés à l'extérieur. Et aux Pays-Bas, l'élection qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, les bureaux de vote étaient à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est tout à fait possible à organiser de cette façon en complément. Ce qui vient à l'esprit à tout le monde, c'est oui, s'il y a du vent. Bien, s'il y a du vent, on fait comme on le fait habituellement, on met un galet ou un presse-papier sur la liste des documents pour éviter qu'ils s'envolent. Ça, c'est pas compliqué. Donc je crois qu'au mois de juin, en France, nous devons être capables, tous collectivement, d'être imaginatifs et de faire en sorte de maintenir ces élections. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une pause dans la démocratie.
Un propos recueilli par Marie Mollet. Il n'y aura pas de dérogation pour les cérémonies religieuses la semaine de Pâques. Le Conseil d'État a rejeté les demandes de deux associations catholiques qui réclamaient de pouvoir célébrer la veillée pascale après 19h. Au regard de la dégradation de la situation, expliquent les sages, le maintien du couvre-feu est justifié.
Le gouvernement renonce finalement à organiser...
RTL Matin.
8h06, la suite du journal de Jérôme Florin. Il n'y aura finalement pas de solde exceptionnel avant l'été, Jérôme.
C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui avait fait cette proposition ici même la semaine dernière sur RTL pour permettre aux magasins de vêtements et de chaussures notamment d'écouler leur stock. Mais vous nous apprenez ce matin, bonjour Martial You.
Bonjour.
Vous nous apprenez que cette idée n'ira pas plus loin.
Non, effectivement, une source au cœur des réflexions me confiait hier soir, les soldes extraordinaires ont du plomb dans l'aile. Une réunion a lieu cet après-midi à Bercy entre les trois ministres chargés de ce dossier, Bruno Le Maire, Alain Griset et Olivier Dussopt, et il devrait effectivement enterrer cette idée. Cette possibilité, elle était défendue par les grandes enseignes qui commandent souvent de la marchandise spécialement pour les soldes et qui ont actuellement sur les bras les vêtements et les chaussures de demi-saison pour le début du printemps. Alors avec 100 000 magasins fermés jusqu'à nouvel ordre, cette collection risque de ne pas s'écouler. Surtout que les soldes rallongés en février ont été moroses avec des ventes en baisse de 20%. Mais les petits commerçants indépendants, eux, n'en voulaient pas de ces soldes exceptionnels parce qu'ils ne peuvent plus vendre à perdre. à perte quand ils ne sont pas tout simplement fermés. Ça devient compliqué financièrement. Résultat, l'État pourrait payer le surstock au moment de la réouverture des magasins. Des experts comptables ou des commissaires aux comptes vont évaluer la marchandise en trop par rapport à la même date l'année dernière. Et l'État compenserait ses invendus sous forme d'une avance de trésorerie, par exemple. Là, les modalités ne sont pas encore totalement arrêtées à cette heure-ci. L'arbitrage est donc attendu pour la fin de la journée.
C'est l'État qui paiera. Donc merci beaucoup. Information RTL signée Martial You.
Le procès aujourd'hui d'une attaque mortelle est toujours inexpliqué.
En août 2017, une voiture fonçait sur la terrasse bondée d'une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, tuant une adolescente et blessant une douzaine de personnes. Le conducteur, âgé aujourd'hui de 36 ans, comparaît devant les assises de Melun, Thomas Proutot.
Il est 20h15, le 14 août 2017. Une cinquantaine de personnes dînent en terrasse du Césena à l'entrée d'une petite zone industrielle. Une BMW surgit soudainement à 80 km/h et s'encastre dans le restaurant italien. Angela, 13 ans, est tuée sur le coup, son petit frère gravement blessé. En garde à vue, le conducteur est incohérent, limite délirant, affirme qu'il voulait commettre un acte grave afin d'être emprisonné. Face au juge d'instruction, il finira par changer de version et affirmer qu'il s'agissait d'un accident intolérable pour François Mazon, l'avocat de la famille d'Angela.
C'est absolument insupportable, d'autant plus que les parents d'Angela ont vu son visage au moment où il est arrivé sur leur table dans la pizzeria. Ils ont vu ses yeux ouverts, ce sourire. Son père, qui s'est retrouvé ensuite quasiment sous les roues de la voiture, a aussi vu cette façon de passer sa marche arrière comme s'il sortait d'un parking. Il n'y a rien dans ce dossier qui vient appuyer la thèse de l'accident.
Les psychiatres ont établi une altération du discernement du prévenu au moment des faits, ce qui n'empêche ni d'être jugé ni d'être condamné. La famille d'Angela espère au minimum entendre des regrets pour ce crime gratuit, toujours inexpliqué.
Thomas Proutot, en bref, à l'étranger, la Chine qui poursuit sa reprise en main de Hong Kong en modifiant le système électoral pour donner plus de poids aux élus pro-Pékin. Le président Xi Jinping vient de promulguer cette réforme qui vise à marginaliser encore un peu plus l'opposition. Plus de 500 civils, dont de nombreux adolescents et étudiants tués en Birmanie depuis le coup d'état militaire du 1er février. C'est le dernier bilan publié ce matin par une ONG.
Et maintenant, nous remontons le temps grâce à un journal très particulier.
Vous rappelez-vous de ce que vous avez mangé le 15 mars 1987 ?
Non pas.
Eh bien, Bernard Maze, oui. C'est un Havrais de 81 ans. Il consigne dans des carnets chaque détail de sa vie depuis 50 ans. Il ne manque pas une seule journée. Tout y est, Frédéric Veil.
Devant lui, une montagne de cahiers, des grands, des petits. Le premier porte la date du
15 mars 1971.
Bernard avait 31 ans à l'époque.
J'ai commencé comme ça un jour. C'était écrit pas très bien. Et petit à petit, après, je suis parti dans ces gros bouquins-là. Et depuis, il ne me manque pas une journée. Il y a tous les détails. On m'a demandé surtout, un jour, c'est les températures sur un an d'affilée pour faire un graphique.
Et effectivement, il y a toute sa vie dans ses livres, son travail, ses loisirs, ses tickets de parc-mètre. Tout ce qu'il a fait est noté au stylo. Et en consultant la page du 29 mars 1985, on découvre qu'il a manger.
Radis, pâtes, œufs sur le plat, fromage, tarte mandarine, 13h vaisselle, sieste canapé, 15h météo sublime.
Dans les 22 cahiers de Bernard, il y a aussi ses randonnées à vélo, les mariages, les enterrements, les résultats des élections, des dessins, des dédicaces d'anonymes ou de gens connus, sauf celle du maire Édouard Philippe.
Ah ben non, il faudrait que je lui demande à Édouard. Il dira d'accord, hein, c'est sympa. Hein.
Fin de la lecture, Bernard reprend son stylo, pose son buvard. Il a encore tant de choses à écrire.
Oh là là, Frédéric Veil, Bernard Maze a même fait des illustrations au crayon de couleur pour raconter sa vie. Et il espère que ses carnets pourront être lus après sa mort.
Il faudra demander une petite signature à Edouard, nous l'avons bien compris. L'histoire du jour.
Divine surprise pour cet agriculteur algérien près de Constantine qui, en voulant creuser un puits pour trouver de l'eau dans son champ, est tombé sur ce qui semble être du pétrole. Une matière noire et visqueuse en cours d'analyse, on ne sait jamais, mais d'après les premiers résultats, il s'agirait bien d'hydrocarbures. Ce fermier est en passe de devenir le roi du pétrole.
Mais la benzine ou la gasoline, le plastique ou la paraffine, ne cherche pas, c'est toujours du pétrole.
C'est Jérôme Florin aime bien nous trouver des pépites, hein, c'est un musicien.
Vous la connaissiez pas celle-là?
Non, du tout.
Le pétrole, Johnny Hallyday 1978.
Merci beaucoup, c'était le journal de Jérôme Florin.
Paraît qu'il y en a ton des idées, faudrait voir leur bagnole rouler, s'y mettre autre chose dedans que du pétrole.
RTL Matin, Yves Calvi.
Les écoles peuvent-elles rester ouvertes? C'est la question de la semaine. Quel est le risque réel? Et maintenant, les enfants, en maintenant les enfants à l'école, font-ils flamber effectivement l'épidémie? Nous accueillons notre brigade de l'actualité pour évoquer la situation dans nos écoles. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Sophie, que disent les études réalisées sur la fermeture de nos écoles?
Tout
et leur contraire. Certaines font baisser la mortalité de 2 ou 3 %. Certaines études montrent que ça fait baisser la mortalité de 2 ou 3 %, mais d'autres non. Tout dépend du moment où la décision est prise et des mesures de confinement plus ou moins strictes qui les accompagnent.
Mais les enfants font-ils, oui ou non, circuler le virus ?
Pas d'unanimité. Beaucoup vous diront que c'est de la folie de laisser les classes ouvertes alors qu'il y a 30 ou 40 000 nouvelles contaminations par jour, car les enfants ramènent le virus à la maison. La dernière étude de l'Institut Pasteur montre que d'avoir un jeune au collège ou au lycée est associé à un sur-risque d'infection pour les parents d'environ 30%, mais ce n'est pas le cas pour les enfants à l'école primaire. Mais dans le même temps, la Société française de pédiatrie rappelle à nouveau que les enfants ne sont pas la cause d'une plus grande circulation du virus, ils n'en sont que le reflet. Autrement dit, oui, il y a plus de cas positifs dans les écoles, mais comme partout ailleurs, notamment à cause du variant anglais, davantage contagieux, quel que soit l'âge.
Mais il y a de plus en plus de classes qui ferment.
Ça, c'est fait, c'est un fait, c'est vrai, c'est objectif. Le nombre de classes fermées n'a jamais été aussi élevé, 3256 selon les derniers chiffres connus de vendredi. Mais c'est aussi parce qu'on dépiste plus. Ça représente 0,6% de toutes les classes de France, 0,17% des 12,5 millions d'élèves sont positifs. Donc il y a deux façons de lire ces chiffres,
oui.
C'est très peu, inutile de fermer, ça augmente. Il faut fermer. D'autant qu'on impose aux enfants à l'école ce qu'on interdit depuis des mois aux adultes. C'est ce qu'écrit par exemple le think tank Terra Nova. Aujourd'hui, dans une classe, on compte 30-35 élèves masqués. Alors que pour la même superficie dans l'entreprise, les réunions ne sont pas autorisées à plus de 5 ou 6. Autre exemple, les élèves déjeunent tous serrés à la cantine alors que dans les entreprises, on recommande de manger seul devant son ordinateur de poids, de mesure.
Alors finalement aujourd'hui, il n'y a plus de voie pour fermer ou pour ouvrir les écoles ?
Ça dépend qui vous interrogez. J'ai jamais vu autant d'hésitation, de contradiction. Quel est le bénéfice-risque de la fermeture des écoles ? Le bénéfice, c'est ce qui s'est passé en mars, à condition que tout ferme en même temps. Plus d'écoles, tout le monde à la maison, le virus ne circule plus. On contrôle l'épidémie. Mais si les écoles ferment et que les parents se contaminent à la cantine de leur entreprise, ils rapportent le virus à la maison, école fermée ou pas. Ça, c'est pour le bénéfice. Le risque, une circulation du virus hors de l'école qu'on mesure assez mal et surtout le décrochage scolaire, un arbitrage compliqué.
Il n'y a pas d'autre possibilité à part fermer les écoles ?
Sans doute régler ce point noir qu'est la cantine. Pourquoi pas faire manger les enfants dehors, demander aux parents qu'ils le peuvent de venir chercher leurs enfants pour le déjeuner et au pire, effectivement, les fermer. Peut-être commencer par fermer les lycées, mais pas les écoles. Vous voyez, une mesure unique, en tout cas, ne servirait à rien. Quelle que soit la décision, il y aura des conséquences compliquées, voire dramatiques.
Merci beaucoup Sophie Orange. Dans un instant, on va vérifier les fake news avec Jean-Mathieu Pernin. Et puis nous retrouvons Michel Simès pour évoquer la journée mondiale des troubles bipolaires. A tout de suite sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Il est 8h17, on va regarder ce qui se passe du côté des intox et des fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, est-il possible de dissoudre le syndicat étudiant l'UNEF comme le réclame Éric Ciotti ?
Et oui, c'est vrai que si vous en avez assez du Covid, eh bien parlez de l'UNEF. Vous verrez, ça met une certaine ambiance et vous serez ravis d'avoir ces discussions en distanciel surtout. Le 17 mars dernier, la présidente du syndicat étudiant UNEF évoque ces réunions dites interdites aux Blancs, des groupes de parole pour que les personnes victimes de racisme puissent s'exprimer librement. Aussitôt, plein de cris sortis polémiques et certains, comme le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, réclament la dissolution de l'UNEF, mais également l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Mais attention, parce que ces deux parlementaires font un peu de com, parce que dissoudre une association ou un groupe ne se fait pas sur un claquement de doigts du ministre de l'Intérieur. La dissolution d'une association nécessite en fait un décret qui est pris en Conseil des ministres qui doit s'appuyer sur un des 7 motifs énoncés par l'article L212-1 du Code de sécurité intérieure. Et parmi ces articles, il y a constitution de ligue, de contestation de l'égalité républicaine ou association provoquant la discrimination ou la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Alors le Figaro étudiant a interrogé Thomas Loncle, il est avocat spécialisé dans le droit des associations et il explique, en parlant de l'UNEF, que les faits éventuels de provocation, si tant est qu'ils soient avérés, ne seraient pas susceptibles de constituer un délit. Il s'agit de réunions privée et non publique, donc difficile d'y appliquer un motif du Code de sécurité intérieure.
Alors d'autres demandent que le syndicat tout simplement soit privé de subventions.
Voilà, alors ça c'est la solution de Xavier Bertrand, oui. Mais pour ce faire il faudrait que la Cour des comptes soit saisie soit par une commission parlementaire ou les services de l'État en charge du budget. L'UNEF reçoit des subventions publiques à peu près 458 850 euros annuels. On sait ce qu'elle en fait puisque le rapport du commissaire aux comptes est publié chaque année au journal officiel. Toujours dans le Figaro, il est précisé qu'il faut prouver si ces réunions sont étrangères au statut du syndicat étudiant complexe.
Bon, l'UNEF a déjà été privée de subventions ?
Bah oui, l'organisation étudiante existe depuis 1907. On sait qu'elle a connu différents schismes, hein, différents scandales, mais c'est en 1960 qu'elle connaît une crise du tiroir caisse. Le gouvernement lui supprime alors sa subvention de 10 millions d'anciens francs suite aux prises de position du syndicat en faveur d'une paix négociée alors en Algérie et du rétablissement de relations officielles avec l'Union Générale des étudiants musulmans algériens qui était alors à l'époque interdite en France. Est-ce que vous le sentez un peu le débat qui risque de durer un certain temps là, non ?
Merci Jean-Baptiste Perdin. À demain.
À demain.
Dans un instant, on va retrouver Michel Simès.
RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
C'est la journée mondiale du trouble bipolaire. C'est une maladie chronique des troubles de l'humeur dont il est difficile d'évaluer l'étendue.
Oui, la fourchette est assez large. Il est question au mieux de 600 000, au pire 1,3 million de personnes dont l'humeur joue les montagnes russes et oscille entre poussées d'exaltation et périodes de dépression. Hommes et femmes sont également touchés par cette psychose dont les symptômes apparaissent généralement entre 15 et 25 ans et ne disparaissent plus ensuite.
Non, justement, quels sont-ils ces symptômes ?
Alors, principalement, l'alternance d'épisodes maniaques et d'épisodes dépressifs. L'épisode maniaque donne à voir des personnes hyperactives, désinhibées, volubiles, qui fourmillent de projets tous plus improbables les uns que les autres, promettent de renverser des montagnes, baignent dans l'euphorie et surconsomment. Pendant cet épisode, le patient se sent invulnérable, irrésistible, donne son avis sur tout avec une force de persuasion encore plus marquée s'il ne maîtrise pas le sujet. Ça peut être particulièrement éprouvant pour son entourage.
J'imagine que viennent ensuite les épisodes dépressifs et alors là c'est tout l'inverse.
Et oui, festival de tristesse, de déconcentration, de manque d'envie, de perte d'estime de soi, le patient est dans la culpabilité.
Les deux phases se succèdent systématiquement ?
Non, il y a des périodes de répit pendant lesquelles le patient retrouve un semblant de stabilité psychique et c'est heureux parce qu'en période de crise, il arrive que le sommeil soit difficile à trouver, ce qui fragilise encore plus l'équilibre psychique. Mais cette période de calme, eh ben, c'est un peu comme la bonne santé du docteur Knock de Jules Romain, un état transitoire qui ne présage rien de bon. Bref, on sait que la tempête ressurgira tôt ou tard.
On est maniaco-dépressif ou on le devient ?
C'est très difficile de répondre. Il y a débat. Alors, ce qu'on sait, c'est que quand les parents sont concernés, le risque est accru pour les enfants.
D'autres facteurs conduisent-ils au trouble bipolaire ?
Disons qu'il y a des profils. Les personnes maltraitées durant leur enfance, les personnes dont la mère a consommé des substances toxiques quand elle était enceinte, ces comportements perturbent le développement neuronal.
Quels sont les traitements à disposition ?
Alors, les médicaments et le suivi psychothérapeutique. La difficulté, c'est de faire comprendre aux patients que le traitement doit être scrupuleusement suivi. Beaucoup de malades, au prétexte qu'ils se sentent mieux, relâchent leurs efforts et rechutent. Quant au suivi psychiatrique, il doit être permanent. Même en l'absence de traitement médicamenteux, même en cas de disparition des symptômes, il permet aux malades de mieux se connaître et de voir venir les signes avant-coureurs des épisodes maniaques ou dépressifs.
Merci beaucoup pour toutes ces informations concernant les troubles bipolaires. À demain, Michel.
À demain.
Il est 8h22. L'islamo-gauchisme est-il en train de déstabiliser notre démocratie ? C'est l'une des questions que pose le journaliste Mohamed Sifaoui. Son nouveau livre, « Les fossoyeurs de la République » est une enquête inédite. Il vient nous la présenter en avant-première dans quelques instants sur RTL. Restez avec nous.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin.
Il est 8h23, bonjour Mohamed Sifaoui.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes un spécialiste de l'islam politique, directeur de la publication de la chaîne Islamoscope. Et demain paraît votre nouvelle enquête, Les Fossoyeurs de la République, c'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir réservé la primeur de vos déclarations aux auditeurs d'RTL. Vous nous proposez donc la toute première enquête sur l'islamo-gauchisme. On n'a pas rêvé, hein, ça existe bien ?
Bah écoutez, oui, ça existe. D'ailleurs, je n'aurais pas fait, à mon avis, un livre de 450 pages pour raconter quelque chose qui n'existe pas. Ça existe parce qu'un néologisme, quand il s'impose dans le débat public, oui, c'est soit pour raconter quelque chose de nouveau qui existe, soit pour servir les relents complotistes de courants divers ou variés. En l'occurrence, l'islamo-gauchisme, ça existe bel et bien.
Comment expliquez-vous la foudre qui s'est abattue sur la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, quand elle a demandé un état des lieux sur l'islamo-gauchisme au sein de nos universités ?
Ce que j'ai découvert, et je le dis très calmement, c'est qu'il y a des cercles de dogmatiques dans notre université qui polluent totalement le débat et la manière d'examiner les phénomènes sociétaux, notamment modernes. Il est incroyable comment la France est devenue, otage de ces dogmatismes. C'est-à-dire qu'au lieu d'interroger des réalités politiques, idéologiques, sociologiques, on préfère se confiner dans des postures et des impostures, in fine, qui mettent leurs auteurs dans des positions de juge ou de procureur pour, je dirais, disqualifier parfois n'importe quel propos qui serait contradictoire.
Et en fait, éviter le débat.
Et c'est pour ça que c'est dangereux.
Alors, vous ouvrez le livre sur une manif anti-islamophobie, en tout cas qui se qualifie comme telle, celle du dimanche 10 novembre 2019. Un peu plus de 13 000 personnes rassemblées pour manifester, donc officiellement, contre l'islamophobie. Et vous dites que c'est le point de départ d'une large réflexion que vous filez tout le long du livre, notamment sur la sémantique, le fait de se victimiser. Vous utilisez d'ailleurs le terme de racisme anti-musulman, qui est utilisé eux-mêmes à l'époque par ceux qui sont là. Cette dérive dans l'appellation, elle fait des ravages ?
C'est ce que je vous disais, les néologies généralement sont là soit pour marquer ou forger des événements ou des réalités, soit pour inventer des complots. L'islamophobie est une escroquerie intellectuelle qui vise à atrophier le débat. Et ça, on peut le documenter, c'est pas le propos aujourd'hui.
Il y a des racistes en France, mais ce ne sont pas des islamophobes. Mais le terme islamophobie n'en rend pas compte.
Le terme entretient une ambiguïté entre la critique légitime des dogmes et de la religion musulmane et ce qui doit être condamné, en l'occurrence, les actes ou les propos anti-musulmans. Ce sont deux choses différentes. Or, ce terme, qui a été forgé par les islamistes propagé par eux et banalisé par eux et imposé dans le débat public par eux et par leurs alliés, est un terme qui atrophie forcément le débat, parce qu'on va considérer qu'un dessin de presse porté par un journal satirique contre une religion, en l'espèce la religion musulmane, est un acte d'islamophobie, ça veut dire un acte raciste. Or en plus, circonstance aggravante, c'est que le mot islamophobie aujourd'hui est un mot qui tue, et on le sait notamment depuis Charlie Hebdo, mais davantage encore plus récemment avec l'affaire Samuel Paty.
Alors, parmi les pages émouvantes de cette enquête, il y a un témoignage, celui du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz. Je vous cite page 437. « Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre en tant que musulman et comme l'un des représentants du culte musulman au fils de Samuel Paty si dans une quinzaine d'années ou plus, une fois adulte, il me croise et me demande pourquoi un homme se réclamant de l'islam a-t-il assassiné mon père qui n'a rien fait d'autre que son métier d'enseignant ?»
Oui, je pense que le recteur de la mosquée de Paris, que j'ai interrogé à plusieurs reprises, fait partie de ceux qui ont eu ce courage de poser les vraies questions aujourd'hui. Il y a un vrai problème dans le monde musulman et qui ne concerne pas la France. D'ailleurs, l'un des problèmes qui concerne l'université française, c'est l'autocentrisme de beaucoup d'universitaires et d'intellectuels français qui ne voient les phénomènes qu'à partir d'une vision franco-française. La question de l'islam politique et, par prolongement, la question de l'islamo-gauchisme est un phénomène mondial. Aujourd'hui, évidemment que l'islam pose question à tout le monde parce qu'au nom de l'islam, des gens sont massacrés un peu partout depuis au moins une quarantaine d'années. Et si des musulmans ou des gens qui se réclament de cette religion ne posent pas ou n'interrogent pas ce qui ne va pas dans leur religion, c'est qu'on est en train de passer devant quelque chose de grave et il y a moralement, à tout le moins, une complicité qui s'installe.
L'un des chapitres de votre livre s'intéresse à l'infiltration de nos universités. Sous couvert de faire de la recherche, des enseignants, des sociologues, parfois même des chercheurs biaisent et diffusent des idées loin d'être laïques et républicaines. Sous couvert de faire des recherches, l'idéologie se diffuse, c'est ça ?
Oui, mais on l'a vu à maintes reprises, je l'ai subi personnellement, puisque une formation a été annulée à la Sorbonne après que les dirigeants de la formation continue m'aient sollicité sur la pression de milieux islamo-gauchistes sous des motifs totalement fallacieux. Et ce qui se passe dans l'université française...
Ils font de l'entrisme.
Mais bien sûr qu'il y a de l'entrisme chez d'abord beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants aussi, et depuis, je dirais, une vingtaine d'années. On sait qu'il y a des enseignants militants aujourd'hui, et ces enseignants militants servent une double cause, celle de l'islam politique et celle des milieux gauchistes.
Vous citez des groupes, des personnes, des universités, Tolbiac ou Nanterre, j'ai été étudiant là-bas. C'est une réalité sur tout le territoire ?
Non, heureusement, il y a des foyers, je dirais, islamo-gauchistes, c'est une réalité. Il y a des universités où on ne peut plus traiter sereinement de certaines thématiques. Il y a des universités où le terme islam, dès que vous le prononcez, ça crée une bronca, sauf à être dans la complaisance et dans la connivence avec les milieux islamistes. Il y a, heureusement, d'autres universités où on continue, je dirais, de faire le travail et d'être dans la vocation qui est celle des ancêtres universités.
Sans être paranoïaque, cet entrisme et cette infiltration expliquent la volée de bois vert que s'est pris le ministre en posant la question.
Écoutez, que ce soit Jean-Michel Blanquer, que ce soit Gérald Darmanin, que ce soit Dominique Vidal, Frédéric Vidal. Tous les ministres, et je ne suis pas leur avocat, je ne suis pas leur porte-parole, ont découvert quelque chose qui relève d'une réalité aujourd'hui et une réalité politique et sociologique. Ne pas en parler, ça aurait été une faute.
Oui.
Ils pointent du doigt un phénomène qui est bien réel. Je pense qu'ils ont raison de le faire.
Vous nous annoncez une forme de conflagration, une sorte de face-à-face. D'un côté, les islamo-gauchistes, de l'autre, l'ultra-droite identitaire qui s'affirme par exemple dans les médias. Vous pensez que cette bipolarisation est en train de se mettre en place et qu'elle est dangereuse pour la société française ?
Elle y est déjà. On est face à des chocs, des extrêmes, et on le voit, qui se manifestent sous des formes parfois caricaturales sur les réseaux sociaux, mais évidemment qu'on a un choc des extrêmes. On a d'un côté l'islam politique qui nourrit des milieux identitaires d'extrême droite, et on a l'extrême droite qui nourrit l'extrême gauche, et on a, je veux dire, toutes ces radicalités, comme on les appelle parfois, qui se télescopent. Et c'est extrêmement dangereux pour ceux qui veulent être dans la nuance et dans la parole républicaine et par prolongement laïque, parce que, justement, ces derniers, aujourd'hui, dans une sorte d'inversion totalement ridicule, sont ceux qui sont le plus fustigés, c'est-à-dire soupçonnés d'être porteurs de messages qui seraient douteux. Regardez aujourd'hui, quand vous dites « je suis laïque, je défends la laïcité », dans les oreilles de certains, vous passez pour un affreux raciste.
Vous affirmez que les partis politiques ont une responsabilité, notamment une famille politique qui a été la vôtre en termes d'affinité, en gros, pour dire les choses simplement, la gauche. Vous accusez notamment une partie du Parti Socialiste, un homme qui a été candidat à l'élection présidentielle comme Benoît Hamon, d'avoir des responsabilités dans cette désagrégation, en quelque sorte. C'est une perte de valeur ?
Moi, vous savez, je me suis construit dans des idées de gauche. Et les idées de gauche n'appartiennent à personne, et certainement pas à Jean-Luc Mélenchon ou au Parti Socialiste. Moi, je pense qu'en France, on a aujourd'hui la gauche la plus bête du monde, véritablement. Parce que cette partie de la gauche, incarnée par Benoît Hamon, entre autres, mais par d'autres aussi, a fait le pari, je dirais, de penser que le prolétariat aujourd'hui serait représenté par des musulmans, entre guillemets, qui sont systématiquement homogénéisés et qui sont perçus comme porteurs d'une aspiration monolithique. C'est-à-dire que, comme si tous les musulmans dans un quartier, leur aspiration, c'est pas de voir leurs enfants réussir dans la vie, mais c'est de construire une mosquée, si je devais résumer cette pensée. Et en fait, c'est là probablement l'expression d'un autre racisme, celui de la gauche, qui est souvent peu traité et peu discuté.
Les fossoyeurs de la République, islamo-gauchisme, l'enquête inédite, le livre paraît demain aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir initié votre tournée, si je puis dire, pour défendre vos idées et la situation sur l'antenne d'RTL ce matin. Mohamed Sifaoui, bonne journée à vous.
Merci.
Dans un instant, on va retrouver notre météo à 7 jours avec Louis Bonin.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Steven Bellery.
Laissez-vous tenter.
Françoise Hardy ne peut plus chanter, alors elle se souvient de ses chansons. Elle vient de publier Chansons sur toi et nous, un recueil de tous les textes qu'elle a écrits. Elle se confie ce matin. Ses débuts, Jacques Dutronc, sa principale inspiration, son rapport à la chanson et aux mélodies, et sa peur du mot fin. Confidence, dès 9h dans Laissez-vous tenter.
Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi ?
Laissez-vous tenter. RTL Matin.
8h35. Oui. La météo à 7 jours, Louis Bonin. Alors, il fait beau, il fait chaud. La question, c'est est-ce que ça va durer, ou en tout cas jusqu'à quand ?
Jusqu'à quand ? Parce qu'effectivement, ça va durer, mais jusqu'à jeudi inclus. Ça se confirme, hein, avec des températures qui vont frôler les 25 degrés dans la moitié nord. Hein. Aujourd'hui, on a corrigé les températures, on les a remontées encore un peu là depuis une heure. 25 degrés à Paris, par exemple, cet après-midi, 25 dans le sud-ouest. Ça sera la même chose demain, avec un temps très sec, très ensoleillé. Et donc, vous parlez de chaleur maintenant,
oui.
L'après-midi, hein, puisqu'on sera entre 20 et 25, voire 26 degrés peut-être dans les régions du sud-ouest. Toujours un peu plus frais le matin. On peut continuer comme ça pour la journée de jeudi. Et après, ça commence à baisser. Vendredi sera un peu une journée intermédiaire, avec encore une certaine douceur. On perdra déjà quelques degrés. Toujours du soleil. Et puis pour le week-end, là, la baisse va être franchement plus importante, puisqu'on va perdre tout simplement entre jeudi et samedi 10 degrés dans la plupart des régions. Donc on va revenir à des valeurs presque de saison, voire parfois un peu en dessous. Dimanche matin, on va retrouver quelques gelées. dimanche où il fera France entre 10 et 15 degrés dans le nord, pas plus. Et on aura du mal à atteindre les 17-18 degrés dans la moitié sud. Peut-être quelques averses sous forme de pluie ou de neige en montagne sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Et puis en début de semaine prochaine, c'est la deuxième couche. Il fera encore plus froid avec peut-être de la neige à basse altitude, notamment dans les régions du nord-est.
J'aimerais bien comprendre. Vous venez de nous annoncer un week-end pourri?
Oui, j'essaie de le dire un peu.
Oui, non, mais vous le dites avec délicatesse. C'est ce qui fait votre charme.
C'est le week-end de Pâques un peu frais, oui, effectivement.
Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à demain matin.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça ce matin à la découverte d'un couple de passionnés qui s'est lancé il y a quelques années dans la restauration des deux chevaux, des deux doches. Et le succès est fulgurant puisqu'aujourd'hui ils rénovent des deux chevaux venus de toute la France et ont même embauché quatre personnes. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est vous qui êtes allé dans ce qui a été baptisé la Grange aux deux chevaux. C'est en pleine campagne entre Normandie et Bretagne.
Oui, à Montour, très précisément. C'est là où Anne et Christophe Guillaume viennent d'acheter un hangar de plus de 1 500 m² pour faire face à la demande parce qu'ils n'avaient plus assez de place dans leur ancienne grange. C'est donc à cette heure précise, au moment même où les cloches sonnent, qu'ils arrivent tous les matins.
Bonjour les filles.
C'est le rituel tous les matins, vous dites bonjour.
Ah oui. Tous les matins. Tous les matins, bonjour les filles. Leur dire bonjour, c'est comme les saluer, les respecter. Donc voilà.
Il faut dire aux auditeurs. Ce sont des deux chevaux.
Ce sont des deux chevaux, la célèbre et la mythique deux chevaux.
Et dans ce hangar, il y en a des dizaines de tous âges. Certaines roulent encore ou à nouveau. D'autres sont totalement dépouillées. Voilà pourquoi Anne est très organisée.
On dit bonjour et on fait la maîtresse d'école. Je vais au tableau et on va noter tout ce que les compagnons qui travaillent sur les deux chevaux vont faire aujourd'hui. C'est le petit rituel de tous les matins.
Et on voit que le tableau est bien rempli.
Ouais, il y a beaucoup de travail. On a 4 salariés aujourd'hui, un petit stagiaire, voilà, et un nouveau salarié qui va être embauché dans un mois à peu près.
Mais avant de se mettre au travail, il faut faire de la place.
On sort les voitures.
Et comme vous pouvez l'entendre, une deux chevaux, ça démarre au quart de tour.
Frédéric, j'ai une question. Si je veux faire restaurer ma deux-deuches, dans les règles de l'art, combien ça va me coûter?
Eh bien, tout dépend de l'état d'origine, mais il faut compter entre 20 et 30 000 euros pour une restauration et de longs mois d'attente pour retrouver sa deux-chevaux flambant neuve.
Alors, on est modeste, on dit toujours qu'on a un atelier de restauration, mais c'est plus de la reconstruction au stade où on en est, nous, hein, parce que on part de tellement loin qu'on fait un démontage complet et en même temps, on liste toutes les pièces qui sont usagées, moyennes ou à remplacer. Et ce qui nous permet de faire un chiffrage précis pour le client et voir avec lui après l'ordre des priorités. Quand on veut les faire dans les règles de l'art comme nous on fait, on se rend compte que c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment être pointu, il faut chercher les documentations et on ne veut rien faire au hasard, quoi.
Voilà aussi comment Christophe a redonné vie à un modèle très rare.
Ça c'est mon petit bijou à moi, ça. Donc ça c'est une deux chevaux qui est de 1951, juillet 51. Elle a très peu de kilomètres d'origine. Et la particularité sur ces modèles-là, c'est que ça sent la deux chevaux.
En radio, ça se sent pas, mais ici, ça se sent.
C'est une odeur indescriptible. En fait, c'est un mélange d'odeur, de tissu, de caoutchouc, d'essence brûlée. Ça nous laisse une ambiance.
Bon, Christophe, reste plus qu'à aller faire un petit tour.
Ah, volontiers. Alors, ce qui est sympa, c'est quand tu roules en deux, t'as toujours le sourire des gens. On amène de la bonne humeur, en fait. Les gens, quand tu roules en deux chevaux, ils se retournent et rigolent. Tu sais pas pourquoi, mais ils rigolent.
Ben voilà, Yves, c'était le bonheur. Et si, par hasard, vous avez une vieille deux-doches qui dort dans une grange, eh bien, amenez-la ici, elle aura droit à une nouvelle vie.
Merci du conseil et merci pour la balade, Frédéric Veil. Vous êtes comme ça dans la grange aux deux chevaux, à retrouver sur notre site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40, Agnès Bonfillon, les chasseurs de trésors sont de plus en plus nombreux en France. Et pourtant, ce hobby, les autorités ont bien du mal à l'encadrer.
Jean-Pierre étant passionné à 50 ans, il reconnaît que tout petit, il avait déjà le regard planté en permanence dans le sol à la recherche d'une bille ou d'une piécette. Depuis une quinzaine d'années, il pratique à un autre niveau. Armé d'un détecteur de métaux, il a amassé plus de 13 kilos de monnaie ancienne, mais aussi des tessons de poterie, des objets de différentes époques. Un pilleur d'histoire ? Sûrement pas, explique cet ingénieur en informatique. Il se voit davantage comme un gardien. C'est à Jean-Pierre et aux autres mordus que le magazine Society consacre une enquête. Aux prospecteurs, aux détectoristes, puisque c'est comme ça que l'on appelle les passionnés, qui, avec leur poil à frire, tentent leur chance à ce loto version campagne. Sauf que les professionnels, eux, ne voient pas du tout, mais du tout, cette concurrence d'un bon œil. Un véritable fléau qui porte atteinte au patrimoine commun. On ne s'improvise pas archéologue, c'est une activité encadrée. Alors que dit la loi justement ? Eh bien pour utiliser un détecteur de métaux, vous devez avoir l'autorisation du propriétaire du terrain, mais aussi de la préfecture. Et là, trop de paperasse, soupire Jean-Paul, trop de réglementations qui poussent à agir dans la clandestinité. Sachant qu'en plus à cette clandestinité, certains ajoutent le saccage. L'archéologue Éric Champeau ne décolère pas contre les gros bœufs qui bousille tout, ce sont les mots qu'il emploie. Il faut dire qu'en 2012, au retour d'un week-end, avec son équipe, il retrouve la nécropole mérovingienne qu'il fouillait complètement défigurée. Les tombes avaient été chamboulées, pillées, et ce n'étaient pas de simples amateurs du dimanche. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils cherchaient. Parfois, la justice s'en mêle. En décembre dernier, vous vous en souvenez peut-être, nous en avions parlé sur RTL, un particulier dans l'Est de la France était interpellé avec près de 27 000 objets archéologiques chez lui. 27 000, valeur estimée à 700 000 euros. Le monsieur forcément risque une très grosse amende et même de la prison ferme. De quoi décourager les autres ? Bah pas vraiment. Notre confrère Robin Bouqueteau est aussi allé à la rencontre de plusieurs vendeurs de détecteurs de métaux et franchement, les affaires se portent très bien. Alors peut-être la législation évoluera-t-elle, comme ce qui se fait par exemple outre-Manche, là-bas. Lorsque le prospecteur trouve un trésor, les archéologues britanniques prennent le relais tout naturellement. Un travail main dans la main. Au bout de chaîne, ce sont les musées qui récupèrent les différentes trouvailles. Alors quel avenir chez nous pour les chasseurs du passé ? C'est à lire dans le magazine Society.
Merci beaucoup Agnès Bonfillon. Il est 8h43. Dans un instant, Laurent Gérard au grand complet avec toute son équipe. Restez avec nous, vous allez passer un excellent moment, je m'y engage. Merci.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
Il a très bonne mine.
Bonjour
Laurent Gérard.
Bonjour.
Elle sent délicieusement bon.
Oh.
C'est
bonjour
gentil.
Mademoiselle Jacques.
Oh. Heureusement, oh. Merci oh. Monsieur Calvi.
Ça va au-delà, vous m'avez bien.
Moi, je sens le gaz.
Je ne parle pas de vous. C'est pas la même chose.
Je te filerai les tuyaux.
Attention.
Je crois que le Premier ministre est sur le point de prendre la parole.
Test micro. Paris, Bordeaux, Le Mans, Montluçon, Ouarzazate. Bien, les micros fonctionnent. Nous pouvons commencer cette conférence de presse. Cette conférence de presse, y a-t-il des questions ?
Oui, bonjour Antoinette Farigoul d'Azur TV. J'aimerais savoir comment va Roselyne Bachelot.
Rassurez-vous, elle va très bien. Elle va très bien et comme elle me l'a dit elle-même aujourd'hui, je préfère encore être à l'hosto qu'au César. On est mieux accueillis. Une autre question.
Oui, Jacqueline Delarey de Mediapart, êtes-vous favorable à la dissolution de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF ?
Concernant l'UNEF, il semble que le variant islamo-gauchiste ait pris le pas sur les variants trotskistes et maoïstes. Mais la dissolution n'est pas une solution. En effet, comme le dit le proverbe, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, un homme averti n'amasse pas mousse.
Oulala.
Une autre question. Ouais. Tiens, Ardisson, bonjour. J'aimerais savoir à partir de quand les 40-50 ans pourront se faire vacciner. Monsieur Ardisson, personne n'est dupe de vos nouvelles dents en marbre. Tout le monde sait que vous avez 72 ans et que vous êtes déjà vacciné. Une dernière question.
Laurent Ruquier, grosse tête RTL. Vos mesures sanitaires sont incompréhensibles. Est-ce que c'est parce que vous êtes inspiré de la Chine que c'est un casse-tête chinois ?
Ça n'est pas drôle.
Non.
Et ça a déjà été fait. Cette blague. Ça a déjà été fait.
Effet secondaire.
Taisez-vous.
Le mystère entourant la fabrication, la distribution et même l'efficacité du vaccin AstraZeneca s'épaissit, même si son PDG Pascal Soriot continue de répéter que tous les contrats ont été respectés. Pour tirer les choses au clair, le célèbre lieutenant Colombo a été chargé de cette ténébreuse affaire.
Qu'est-ce que c'est encore ? Excusez-moi de vous déranger, monsieur le lieutenant Colombo. Je suis chargé d'une enquête sur cette histoire de vaccin AstraZeneca. Écoutez, vous tombez mal, lieutenant. J'étais en train de compter mes subventions européennes quand vous avez sonné. Il va falloir que je refasse toutes mes additions. Hein? Oh, pardon, monsieur. Les subventions européennes. Bien sûr, les subventions européennes, monsieur. À propos, vos 120 millions de doses, vous comptez les livrer quand à l'Union européenne, monsieur ? Il y a du retard, non ? Oh, décidément, lieutenant, vous voulez tout savoir. C'est très simple. Nous n'avons plus de colle pour les étiquettes, voilà tout. Ah, oh, d'accord, il n'y a plus de colle pour les étiquettes. Et ça, tenez, regardez, 28 millions de doses cachées en Italie. Ça vous dit quelque chose, monsieur ? Ça, c'est tout simplement le livreur de chez Uber Vaccin qui n'a pas trouvé l'adresse de l'Europe. Alors il les a cachées en attendant de les donner aux pauvres. Vous oubliez que c'est bientôt Pâques, lieutenant. Ah, mais oui, ah, mais c'est déjà Pâques. Ma femme me dit toujours, on sera tous vaccinés à Pâques ou à la Trinité. Ah, mais merci, monsieur, j'ai de quoi faire mon rapport. Je vous en prie, lieutenant, je suis à votre disposition. Joyeuse Pâques. Ah, joyeuse Pâques. Ah, j'ai oublié un petit détail qui me chiffonne, une petite dernière question qui me turlupine. Si vous ne livrez pas les vaccins, monsieur, que vous avez promis, vous comptez les rembourser rapidement? Écoutez, lieutenant, je commence à en avoir par-dessus la tête de vos insinuations. Je ne cherche pas à gagner de l'argent, je cherche à guérir les pauvres. Ah, ne vous énervez pas, monsieur. Mais voyez-vous, votre vaccin à 1,80€ pour les Anglais, vous le vendez 11€ au Bangladesh. Alors je vais vous demander de me suivre, monsieur.
Les dernières mesures anti-Covid du gouvernement, dont l'interdiction de se réunir à plus de 6 dehors, sont mal comprises par les Français. C'est le cas de nos amis les déchiens. Ah.
(36-15, code qui n'en veut de la mesure anti-Covid, avec aujourd'hui mon grand Bruno Lechet. Alors, mon Bruno, est-ce que tu es content de des dernières mesures de Jean Castex ?
Ouais, c'est-à-dire que j'y comprends rien, moi, aux mesures à M. Crosstête. Il porte bien son nom, d'ailleurs, sûr. Après nous avoir enfermés à la maison, il demande d'être confiné dehors.
Parce que dehors, tu as moins de risques d'attraper le carano, le connard. Ah la COVID-19, hein, qu'à l'intérieur. Sache que M. Castex, c'est un gars qu'on a dans le ciboulot. Hein. Ça se voit pas, mais il a fait des hautes études, ce gars-là. Des bacs plus 10, hein, des 15, des bacs plus 20, là, ça bouillonne là-dedans. Hein. C'est pas pour rien. Il a fait l'ETNA, hein, monsieur Castex. C'est pour ça que ça bouillonne. Mais moi, je suis content d'être envoyé dehors parce que je pouvais plus supporter ma bonne femme. Mais le problème.
Ah, vu comme
c'est
ça,
du,
oui.
C'est du vécu. Oui. Mais le problème, c'est que monsieur Castex, il veut pas que je retrouve plus de 6 copains pour picoler. Et si je veux casser la croûte dehors, bah, ça doit être avec les gens de mon foyer. Mais moi, si je sors dehors, c'est pour voir ceux qui sont dedans. Hein. Et d'ailleurs, s'ils sont dedans, ça veut dire qu'ils ne sont pas dehors. Hein. Ben, c'est incompréhensible, tout son truc-là.
Ah oui, mais alors, Madame Lochet doit être contente, parce que M. Castex, dans sa grande bonté, a autorisé essentiellement, les coiffeurs à rester ouverts.
Ah ben oui, mais pour les esthéticiennes. Des poils sur la tête, c'est oui, mais les poils du frifri, c'est mon permis.
C'est pas vrai.
Du coup, ma femme, c'est devenu la jungle. Hein. Je suis obligé d'y aller à la machette. Oh là là, je t'arrête tout de suite, mon gars Bruno. Tes propos sont sexistes. Ils sont sexistes, tes propos.
Alors là, tu vas avoir toutes les néo-féministes sur le dos, et je te préviens tout de suite, elles ne sont pas commodes. Hein. Elles sont moins commodes que Jean Castex. Hein. C'est pas dehors qu'elles vont t'enfermer, c'est en prison. Il y a un double tour avec ça.
Ah ben, je suis pas sûr que la prison, ça soit pire que le monde à M. Castex.
Qu'as-tu dans ton panier ? Une prison. Qu'as-tu dans ton panier ? Une prison pour pas être à la maison.
Wow ! Ben alors !
Bonjour !
Pascal Pro !
Mais oui !
Vous n'êtes pas encore en direct avec votre émission sur CNews, l'heure des pros ?
Bientôt, je viens de piquer Laurent Geoffrin.
Vous l'avez vacciné ?
Non, je l'ai endormi, comme ça il bougera moins. Quand je lâcherai sur lui Ivor Youfol et Elisabeth Lévy,
oh là là.
Il va bien s'amuser.
Et sur RTL, que sera le menu des auditeurs ont la parole ?
Une fois n'est pas coutume, nous commenterons un sondage Ipsos vinaigrette sauce à la question « Que vous inspire la candidature de Xavier Bertrand à l'élection présidentielle ?» 20% ont répondu « On n'en a rien à carrer », 30% « Je m'en bats les steaks » et 5% « Je m'en touche une sans faire bouger l'autre ».
Ah, très bien, merci Pascal.
C'est pas fini. Ah, voilà. L'interdiction de se réunir à plus de 6 personnes va-t-elle empêcher Xavier Bertrand de tenir des meetings? Je ne pose pas la question car j'ai la réponse, c'est non. Xavier Bertrand pourra réunir ses 5 partisans, à savoir Paulette Bertrand, Jean-François Bertrand, Kevin Bertrand, Chloé Bertrand et Caramel Bertrand, le hamster de Chloé Bertrand.
Ah, merci pour ces précisions.
Je n'ai pas fini, c'est deux fois. Il en faut pour tout le monde. Nous parlerons également des fêtes pascales avec la tradition des cloches qui, vous le savez, partent au Vatican pour la fin de la Semaine Sainte. Oui. Puisque les cloches s'en vont, va-t-on retrouver Jean Castex et Olivier Véran à Rome? Je pose la question au 32-10.
Non, c'est pas très gentil, ça.
Mais si, mais si. À propos du Premier ministre, justement, Jean Castex veut nous préserver de tout. Est-ce un hasard si Castex rime avec Durex?
Bon, écoutez, merci Pascal, c'est pas l'heure, là.
Qui fait plus de mal à notre pays? Le variant anglais ou le Véran français? Je pose la question au 32-10.
Bon, écoutez, stop et bonne émission, Pascal.
Oh, oui. Non, finalement, tous ces tocards m'ont fatigué et je vais me coucher. Voilà.
Oui, mais on vous retrouve avec toute l'équipe dès demain matin.
Après la sieste.
Voilà, absolument. Et sur le site rtl.fr. Merci beaucoup pour ce merveilleux moment une fois de plus. Oui, vous avez le droit de boire un petit peu d'eau. Oui, si je vous parle asperges dans quelques instants avec Cyril Lignac, ça vous convient?
Oh, j'adore ça.
Ah, voilà.
J'adore ça.
Vous êtes venu avec une recette.
On va préparer des asperges, c'est la pleine saison.
Ah oui, oui. Ah, bah, ça donne envie.
Mais hop, il nous dit pleine saison.
La sauce,
attention, asperges vertes pour l'instant.
Ah, vertes.
Nous procédons par étapes.
D'accord. Ah, c'est les premières, les vertes.
Merci, madame.
Non, c'est les deuxièmes.
Ah, c'est les deuxièmes. Ah, bah merde alors.
Et alors la personne en rouge qui vient de passer, c'est Isabelle Morini-Bosque.
Oui.
Que c'est pas bon, le Père Noël du tout.
Rien à voir avec une asperge.
Non. Oh, non, mais dites donc. A tout de suite avec Cyril Lignac.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Nos auditeurs vous posent leurs questions sur rtl.fr/participer. Alors Emmanuel, il habite dans le Var et il vous demande une recette de gourmande, pas croquante, gourmande seulement, avec des asperges.
Alors déjà, il faut bien les cuire. Donc grand volume d'eau bouillante salée, on cuit les asperges, on les pique avec soit un petit cure-dent, soit une petite pointe de couteau. Pour vraiment qu'elle reste justement bien croquante, parce que sinon, c'est, quand c'est trop cuit, c'est gâché, moi, je trouve.
Et on perd la tête.
Et après, on perd la tête. Et ensuite, on les met dans de l'eau glacée. Donc, de l'eau chaude à l'eau glacée pour fixer la chlorophylle et bien garder la cuisson croquante de l'asperge, et ça stoppe la cuisson.
Ça y est, la recette gourmande est devenue croquante.
Exact.
C'est plus fort que vous.
Non, mais c'est la base. C'est la base.
Non, mais j'entends bien.
Et après, on va bricoler avec une bonne petite recette. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, ma favorite, c'est les œufs mollets. Mmh. C'est-à-dire les œufs cuits 6 minutes, bien sortis avant, on en a déjà parlé.
Absolument.
Coupés et déposés sur les asperges. Je prépare une petite vinaigrette à base de balsamique rouge, dans laquelle j'ajoute de l'huile d'olive, je mélange du sel, du poivre, j'assaisonne les asperges et je pose l'œuf mollet dessus. Un petit peu de zeste de citron, et là on peut les manger comme ça. Sinon, on peut faire des œufs durs, hachés, ça c'est très connu, hachés, vinaigrés, bien assaisonnés, et ça nous fait une vinaigrette garnie avec des œufs, de la ciboulette. Et là, on arrose bien nos asperges.
On peut même mettre un petit peu d'échalote si on en veut.
Aussi, voilà. Échalote, persil. On va bientôt écrire un livre avec Yves. Avec les gourmands, il a les bonnes idées à chaque fois, j'adore. Et donc, si on veut voyager, j'aime bien la vinaigrette au curry.
Ah oui.
Donc, huile d'olive, curry, balsamique blanc. On peut en même temps déposer une petite cuillère de crème, comme disait Laurent tout à l'heure hors antenne, un petit peu de crème fraîche dans la vinaigrette, et on dépose un petit peu comme ça, curry, crème, vinaigrette, et un petit peu de coriandre, des petits oignons dessus, et ça nous fait une troisième recette. Et je suis dans les temps.
C'est le parfait élève, croquant gourmand. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Jérôme Florin.
À la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée, la situation épidémique s'aggrave. Le pic de la deuxième vague est dépassé. Près de 5000 malades en réanimation. À l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, près de Paris, la moitié des patients a moins de 43 ans.
Nous avons un jeune patient de 30 ans qui n'a aucun antécédent, dans un état gravissime. Une atteinte respiratoire extrêmement sévère. D'ailleurs, comme vous voyez, il est sur le ventre. Dans la chambre numéro 4 que vous voyez là-bas, nous avons un patient 39 ans.
Donc ça, c'est de plus en plus courant ces derniers temps que vous voyez des patients qui ont moins de 50 ans.
Ah oui, tout à fait. Nous avons eu des jeunes femmes enceintes qu'on a pris en charge pour des Covid gravissimes qui avaient respectivement 26 et 34 ans et notamment une de 23 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau.
Pourra-t-on voter les 13 et 20 juin pour les régionales? Dans son avis, le Conseil scientifique pointe du doigt les risques de maintenir le scrutin, mais s'en remet au gouvernement. Matignon rendra son propre rapport aux parlementaires d'ici demain soir. C'est une information RTL. Le gouvernement devrait finalement renoncer à organiser des soldes au printemps pour permettre aux magasins de vêtements d'écouler leur stock. Bruno Le Maire avait émis cette proposition sur notre antenne la semaine dernière, mais les petits commerces s'y opposent. L'État pourrait compenser financièrement le coût des invendus. Et puis en Seine-et-Marne, le procès aujourd'hui du conducteur de la voiture Bélier qui avait foncé sur une terrasse de restaurant à Sept-Sorts en août 2017. Il avait tué une adolescente de 13 ans et fait une douzaine de blessés sans avoir...